Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, on parle catch pendant une petite heure. On se retrouve aujourd'hui pour parler de NXT, le show noir et or. Je suis accompagné pour cela de l'inépuisable Papy. Comment ça va, Papy ?
Bonjour Ringside, bonjour les petits enfants, comment ça va aujourd'hui ?
Ben ça va bien, il fait beau, il fait chaud.
Les oiseaux chantent.
Les oiseaux chantent, c'est vrai, les voisins font du bruit.
Fête des voisins.
La fête des voisins, voilà. Donc, NXT, c'est très important, mais d'abord, une grosse annonce.
Ah oui.
Votre podcast préféré, Catch Up, va fêter ses 5 ans. En grande
pompe.
Happy
birthday.
Happy birthday, Catch Up. Hein, on va mettre les petits plats dans les grands. Mais surtout, on va faire une foire aux questions, une FAQ, une foire au cul. Et donc, du coup, on attend vos questions.
Foire aux questions foireuses.
Voilà, hein, les questions les plus foireuses. On attend vos questions. Donc, le plus simple, sur YouTube, dans les commentaires. Vous pouvez bazarder ça, simplement. Et sinon, bah, les réseaux sociaux hein, sont là pour ça. @CatchUpCDC. Éventuellement sur Discord, si vous êtes membre de notre Discord, hein, l'invitation est dans la description, comme on dit. Maintenant, les gens de Discord sont au courant, hein, donc je pense que, voilà, pour nos auditeurs, si vous n'êtes pas au courant, on a besoin de vous, on compte sur vous pour les 5 ans, vos questions sur, comme je vous l'ai dit, YouTube, le plus simple, ou le petit oiseau bleu, tuteur, @CatchUpCDC.
Et oui.
Ça va être une grosse fête. On va faire un live, hein, je pense, les amis. On vous communiquera la date. Comme ça, au pire, on pourrait même nous poser les questions en direct, réagir en direct, parce que c'est aussi un peu votre émission, Catch Up, finalement.
Voilà. Sans le public, on serait rien.
C'est vrai, on serait rien sans le public. Vous nous avez manqué. On faisait des lives dans le temps. Hein. Peut-être qu'on en refera plus, si ça fonctionne, avec le monde moderne.
C'est ça.
Voilà. Alors, bon, l'annonce est faite. Parlons un peu d'NXT. Vous savez que toutes les semaines, maintenant, on vous review NXT en attendant que Tonton s'occupe de la All Elite Wrestling.
Ça va arriver.
Bah oui, mais il est occupé avec You Talk Too Much. Allez, écoutez, You Talk Too Much. Il reçoit Zygott et bientôt un nouvel invité.
Un nouvel invité mystère.
On a aussi, évidemment, notre view de Monday Night Raw qui est en ligne. Et puis, vous pouvez aller écouter aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, toute notre semaine sur WrestleMania, NXT TakeOver. On a aussi du rétro catch-up, hein, si vous n'en avez pas assez. On vous parle du catch dans le temps. Le catch, c'était mieux avant. Voilà, tout un programme. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà le cas. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une petite nouvelle production qui sort. Et évidemment, commentez, mettez des pouces, mettez des likes. Voilà, une belle auto-promo.
On veut de l'amour.
C'est ça. Allez, on va attaquer NXT du 27 avril 2021. On est toujours au Capitol Wrestling Center. Donc c'est le Performance Center habillement maquillé. Je vous le rappelle, on est en Floride. On a toujours ce générique black metal là, que je trouve assez dégueulasse. Je sais pas si c'est très vendeur, moi. T'aimes bien, toi, cette musique
J'ai l'impression que c'est pas le même en plus que la semaine dernière. Ou alors je me trompe.
Eh bien, c'était la question que je me posais. J'avais l'impression que c'était tout nouveau. Alors que normalement, je pense que c'était déjà le nouveau la semaine dernière.
Bah, disons que la semaine dernière, c'était celui qu'on avait eu à NXT, la chanteuse qui avait chanté live.
Ah ouais.
Et là, par contre, c'était pas du tout la même chanson. Enfin, en tout cas, j'ai pas reconnu.
Ouais. C'était différent. Ça braille beaucoup. C'est peut-être un peu trop agressif, je pense, pour le public américain. Je ne sais pas. Bon, ça plaît à ceux qui aiment, quoi. Mais moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu ringard.
Voilà, bon, c'est dit.
C'est dit. On démarre le show avec Dakota Kai, accompagnée de la championne Raquel Gonzalez. On va catcher tout de suite d'entrée de jeu à NXT cette semaine. Dakota Kai affronte Mercedes Martinez, la nouvelle challenger pour le titre féminin de NXT, qui a lancé son défi la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Enfin, assez récemment, à Raquel Gonzalez. Et donc, ben, avant de pouvoir affronter Raquel, elle va affronter... le sparring partner de la championne, Dakota Kai. Alors, bah, du coup, ça, c'est évidemment la force de Mercedes Martinez, hein, la vétéran du ring, contre les esquives de Dakota Kai, qui réussit à piéger Martinez dans un DDT. Dakota Kai vend l'épaule hein, pendant le match. Elle va faire un backbreaker sur Mercedes Martinez pour le compte de 2. Dakota domine, se fait piéger dans un petit paquet pour le compte de 2. Mercedes Martinez réussit à éviter un running kick dans le coin. Et elle va tenter de tomber après une espèce de crucifix powerbomb modifié. Ce sera simplement 2. Dakota réussit à toucher Martinez avec son running kick, ce qui fait basculer la Mexicaine à l'extérieur du ring. Là, c'est la pub. Au retour de la pub, c'est Mercedes qui commence à réagir un peu. Elle écrase Dakota Kai contre le tablier du ring. On est toujours à l'extérieur du ring. Mais en remontant, justement, dans ce même ring, elle se fait piéger. Et après, Dakota Kai va lui mettre un bon coup de boule. Mais Mercedes va rétorquer avec une grosse discus lariat, des gros ATMI dans le coin du ring. Enchaînement de souplesse façon 3 amigos là, de Mercedes, ça, c'est impressionnant. Et après un contre de Dakota, voilà, Dakota a réussi à contrer, elle s'enfuit à l'extérieur du ring. Mercedes Martinez la pourchasse. Là, c'est Raquel Gonzalez qui s'interpose. Hein, la championne était à l'extérieur du ring hein, depuis le début. Mercedes va la frapper directement, hein, y a pas de raison. Là, elle remonte dans le ring, elle va dominer un petit peu Dakota, mais Raquel Gonzalez ne va pas en rester là, elle rentre dans le ring. Elle déboule, gros big boot sur Mercedes Martinez, c'est la disqualification, donc victoire de Mercedes Martinez par disqualification. Et par contre, derrière, c'est le passage à tabac. Raquel Gonzalez va exploser Mercedes Martinez, l'exploser à l'extérieur du ring. Contre les barricades, contre les poteaux, contre les accélérateurs, un peu contre tout. Et voilà. Et puis après, elle l'insulte. Hein, elle lui dit ah, tu crois pour qui? Tu crois que c'est qui? C'est moi la championne. Donc si on avait des doutes, là maintenant, on est sûr. Les heels dans l'histoire, c'est Raquel Gonzalez et Dakota Kai. C'est pas clair depuis le début. Qu'est-ce que tu as pensé de cette opener, mon bon papy?
Ouais, c'est en fait, ta conclusion, c'est exactement ce par quoi j'avais commencé. C'est de dire qu'en fait, on avait. Effectivement, moi, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il y avait un gros doute sur qui serait le heel dans l'affaire. Parce que Mercedes Martinez, elle a quand même une tête de bras bonne méchante et que Raquel Gonzalez était plutôt tout sourire là, depuis sa prise de titre et des mouvements émouvants, des photos avec les copines et tout. Puis là, en fait, ça va dans l'autre sens et c'est plutôt Mercedes qui était, j'ai pas envie de dire acclamé, mais qui en tout cas était soutenu par le public et qui est le public voué. Raquel Gonzalez quand elle attaquait, qu'elle faisait son beatdown. Donc ouais, effectivement, c'était pas forcément le positionnement attendu, mais en tout cas c'est celui qu'on aura. C'était plutôt un affrontement de qualité. Il y a eu un méchant botch, un moment, je sais plus c'est quand, où t'as le pied de Dakota Kai, je crois qu'il passe à 4 km de la tête de Mercedes Martinez. Ouais. Par contre, c'était plutôt sympa, plutôt enlevé. Et puis du coup, plutôt surprenant de voir Mercedes Martinez endosser le rôle un peu finalement du face dans l'histoire et c'était un bon entrant en matière, la rivalité se met en place.
Voilà, oui, c'est bien quand même d'avoir défini clairement qui étaient les méchants, qui étaient les gentils, parce que comme tu l'as dit, c'était pas clair depuis le début. Je crois que tu l'avais souligné justement après Mania, dans notre review après Mania, que souvent après NXT TakeOver, les gagnants des matchs, les champions ont tendance à passer babyface comme ça organiquement.
Oui,
mais que ça exactement. Ça se confirme pas toujours par la suite. Et là, effectivement, on a eu ce moment avec cette Raquel Gonzalez tout sourire là, qui on pensait que ça y est, c'était bon, elle était gentille, mais en fait non, elle est encore très violente. Et c'est là pourtant badass, hein, Mercedes Martinez qui en est pour ses frais. Alors je sais pas du coup si ça a beaucoup marché d'avoir Mercedes Martinez en babyface.
Ouais, moi je pense de toute qu'elle est là pour faire la transition. Hein. Je peux me tromper, mais c'est pas quelqu'un sur qui je pense que tu peux miser sur le long terme. Enfin, je fais une formule qui n'a pas de sens, mais je veux dire sur le long terme immédiat. Tu vois, c'est peut-être qu'un jour elle aura sa chance, Mercedes Martinez, mais là pour l'instant je le vois surtout faire sparring partner, quoi.
Ouais, clairement. De toute façon, je pense quand même qu'elle a été embauchée là parce que elle a quand même une grande expérience des rings et que c'est pour faire bosser un peu les nouveaux, quoi. Raquel Gonzalez, malgré tout son talent, elle est quand même super green dans le ring, donc
oui.
Ça fait du bien de bosser avec des vétérans comme ça. Donc challenger de transition, on va dire. Après voilà, si elle fait bien le boulot, Mercedes Martinez, elle pourra peut-être monter dans le main roster à un moment ou à un autre, même si elle a déjà refusé une montée, hein, puisqu'elle elle s'était désolidarisée de Retribution.
Elle était quelle erreur.
Oui, quelle erreur. Non, elle a eu des creux là-dessus. Elle a plutôt bien joué. On aurait plutôt tendance à dire que refuser de monter dans le main roster, c'est pas très malin. Mais là, sur ce coup-là, je pense qu'elle n'a pas trop à regretter.
On pourra le dire pour d'autres, je pense, quand on fera la review.
Ouais. De toute façon, ça devient toujours un peu bizarre, ce NXT qui est la troisième brand qui avoue pas son nom. C'est souvent un peu le point faible du show. Voilà. Bon, bah, on va voir la suite. Hein, on aime bien Raquel Gonzalez, donc de toute façon, on va suivre ça avec attention.
Exactement.
Et on reste chez les filles. Hein. Ember Moon et Chelsea Blackheart, qui sont elles sont interviewées dans les vestiaires, elles reçoivent des fleurs. Et de qui sont ces fleurs? De Dexter Lumis. Et qui c'est qui nous la prend? C'est Frankie Monet, qui débarque, qui s'incruste pendant l'interview, et qui prend les petites cartes qu'il y a sur les fleurs là, de Chelsea et Ember, et dit « Ah tiens, c'est Dexter qui vous les envoie ». Alors elles sont pas très contentes, hein, Ember Moon et Chelsea Blackheart, elles se renvoient les fleurs une à l'une. Voilà, Dexter Lumis, hein, le favori des dames, puisque c'est aussi qu'il a fait fondre Indy Hartwell, la membre de The Way, le clan avec le couple Gargano, Larry, et aussi Theory.
En plein dans les feux de l'amour, là.
C'est les feux de l'amour, c'est ça, ouais. On est dans des gros segments qu'on a plutôt l'habitude de voir à Bande des Nitro, hein. Mais bon, oui. il faut aussi qu'ils apprennent.
C'est ça qui est bizarre, c'est que sur les intros, tu te dis qu'ils font ça pour combler le trou, enfin le temps. Là, pour le coup, dans une heure de moins sur NXT, bon.
Et ça s'impose pas, hein, ce genre de de segment. Mais j'ai remarqué que cette semaine, ça va très vite, les enchaînements des segments. Hein. Je sais pas si tu as trouvé, on enchaîne les trucs, on verra un peu plus tard. Une séquence backstage, un truc enregistré. Là, on va enchaîner, par exemple, sur Cameron Grimes qui va acheter une montre.
Ouais.
Donc il y a un premier passage. Après, on va aller tout de suite à la fin. En fait, il achète sa montre, il est content. Et là-dessus, il y a Ted DiBiase qui débarque et il dit ah c'est une belle montre, mais c'est pas une montre de millionnaire. Puisque Cameron Grimes est apparemment en feud avec Ted DiBiase, le millionnaire du ring, hein, le Hall of Famer. Via des petits sketchs comme ça. Hein. On se rappelle que Cameron Grimes est pété de thunes à l'heure actuelle.
Voilà, parce qu'il a misé sur les bons trucs, les bonnes actions de je sais plus quoi, là.
Ouais.
C'est pas passionnant. Moi, là, je sais pas comment ils vont faire pour sauver le truc, parce que, on va le chercher, quoi. Alors, à moins que Ted DiBiase ramène un nouveau catcher ou ramène son fils, alors, ça, j'y crois pas du tout.
Ouais, non, ça, je pense pas.
Mais bon, ça serait bien que ça soit pas juste à la fin, voilà, en fait, il y a Finn Balor qui arrive et qui pète la gueule à Cameron Grimes. Super.
Ouais, non, ce serait bien que ça débouche quand même sur quelque chose, parce qu'effectivement, il ne nous intéresse pas trop, Cameron Grimes. Il est doué quand même pour faire des trucs comiques, mais c'est un peu comme les autres, lui, autant le faire monter à Monday Night Raw et puis le faire courir à partir après la ceinture 24/7, quoi. Il serait bien à faire le con, mais c'est pas celui qu'on a envie de voir mis en avant à NXT à l'heure actuelle, je pense.
Non, pas vraiment, non.
Pas vraiment, hein. Donc ben, on espère que peut-être Ted DiBiase va nous rapporter quelqu'un d'autre. On verra bien. On enchaîne ensuite sur les Young Grizzlies vétérans qui sont dans le ring. Critiquent les champions Meskin. Alors c'est eux les leaders, hein, ils nous expliquent, les Young Grizzlies vétérans. C'est pas le titre qui fait le champion, c'est le champion qui fait le titre, ou un truc dans le genre. Et ils essayent désespérément d'imposer leur catchphrase qu'ils utilisaient à la Progress, hein, soon to be champion, etc. etc. Ça marche pas trop quand il n'y a pas de public, hein, tout ça. Ensuite, il y a Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui débarquent. Et ils vont lancer un défi aux Anglais, car eux aussi, hein, évidemment, ils veulent le titre. Maintenant, ils sont en tag team. Ils expliquent qu'ils ont concédé une victoire, hein, aux Young Grizzlies vétérans. Il y a quelques temps, mais ils ont commencé à regarder les enregistrements, notamment Timothy Thatcher, hein, qui est student of the game. Il a étudié tout ça. Et il a remarqué quelque chose, c'est que pendant le match, il y a les gens qui chantaient la chanson, si vous n'aimez pas Zach Gibson, enlevez votre chaussure, la fameuse chanson anglaise. Et puis, bah, il essaie d'imposer aussi la chanson. Mais comme il n'y a pas de public, ça ne marche pas trop. Ils enlèvent leurs chaussures, ils attaquent les Young Grizzlies vétérans. Et puis, voilà, le défi est lancé, quoi, hein. C'est le début d'une feud entre les deux équipes. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Ouais, bon, c'était. Bah, de toute façon, il l'avait annoncé il y a 2 semaines, du coup, qu'ils allaient se concentrer sur la partie tag team, Ciampa et Thatcher. Bon, Ciampa, il est manifestement en pleine régression. Je sais pas, il va bientôt repartir dans la division Cruiserweight, peut-être, vu qu'il repart petit à petit. Il était passé de tournoi Cruiserweight à tag team, à champion du monde, il repart maintenant en tag team, et puis bah, je sais pas où il va atterrir. C'est pas passionnant qu'il saute sur la gueule une bonne fois pour toutes. Thatcher, quand il parle, je comprends. C'est compliqué à comprendre, en fait. Je préfère à la limite quand il est là en train de sourire comme un gros con.
Ouais, faut pas trop le faire parler.
Voilà, faut pas trop le faire parler. Et puis voilà, c'est pas.
C'est difficile de s'enthousiasmer pour les Anglais, là. Gibson et Drake, c'est comme ça qu'il s'appelle l'autre.
Gibson et Zach, non? Zach Gibson et je sais plus.
Je crois que c'est Drake son nom, non? J'oublie toujours son nom. Je l'aime pas beaucoup, moi, son coéquipier là. Bref, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi on leur donne du temps d'antenne. Ils en feront jamais rien de cette équipe. Alors, pour les avoir vus à la progresse, effectivement, Gibson il prenait des grosses broncas quand il arrivait. Notamment avec cette chanson, etc. Mais c'était en Angleterre, ça ne marchera pas forcément aux États-Unis. Et honnêtement, ils n'ont rien de spécial, les deux. Donc, je vois pas pourquoi on perd notre temps avec ces deux-là. Quoi.
En fait, si c'est pour nous dire il ne faut pas les aimer parce qu'il ne faut pas les aimer, juste parce que. En Angleterre, ça, c'est un peu tout pourri, ça. Quand, effectivement, sur le coup, ça m'a un peu surpris. C'est Thatcher qui nous fait une référence à NXT UK. J'ai envie. Bah, je sais pas combien de personnes qui regardent NXT, on regarde NXT UK. C'est 10 personnes tout cassées. Donc, du coup, ce genre de référence, on s'en fout un peu, quoi. Que ce qu'ils ont fait
les
fédérations mineures et tout.
Tu peux pas apporter comme ça une gimmick ou une catchphrase ou une chanson si derrière tu l'as pas construite, quoi. Tu peux pas la faire venir d'une autre fédération.
Surtout l'apporter par la WWE elle-même. Si encore t'as plus qui avait chanté spontanément cette chanson-là, tu vois.
C'est un
peu comme les Olé pour Sami Zayn, tu vois. C'était venu du public, je veux bien. Mais là, que ce soit Thatcher qui. Donc le mec WWE qui fait. Est-ce que vous avez vu qu'il y a NXT UK, les mecs, ils ont enlevé leurs chaussures pour Gibson. Oh, super. Tu vois, Gibson, t'as les trois quarts qui savent pas qui est-ce. Donc, lequel des deux c'est. Donc.
Ouais, non, ça pour moi, ça s'est planté. Hein. Ça fait partie des trucs, par exemple, que Vince McMahon il aurait pas laissé passer parce que ça n'a aucune chance de fonctionner. Quoi. Le merveilleux show noir et or. Drake Maverick est en interview avec Killian Dane. Et comme je vous ai dit, tout s'enchaîne très vite. Hein. C'est des petites séquences qui s'enchaînent comme ça. Alors, il nous explique qu'il est un fan de catch depuis longtemps et il sait déjà comment tout va se passer avec Killian Dane. Il sait qu'il va être trahi. Il sait que quand il sera là pour faire le tag pendant le match, parce qu'ils vont affronter ce soir les Imperium, il sait que quand ce sera l'heure de faire le tag, Killian Dane ne sera pas là, il l'aura abandonné, etc. Mais Killian Dane lui dit non, t'inquiète pas, you got to have faith, les paroles de George Michael. C'est ce que nous dit Drake Maverick. Moi, perso, j'aurais pas eu la ref. Mais c'était un moment rigolo, on va dire.
Oui, mais j'ai eu du mal à trouver la ref aussi. Heureusement qu'il nous la donne, Drake Maverick.
Ouais,
du coup, je ne l'ai pas forcément tilté, parce que c'est un peu une phrase bateau, quoi, qui nous...
Ouais,
il n'y a pas que George Michael qui a dit ça, quoi. Ouais. Mais bon. Mais bon, voilà, qu'est-ce que j'allais dire. Alors, je ne sais pas si c'est... étonnant ou pas dans le bon sens du terme, le fait que Drake Maverick dit je regarde beaucoup de catch et donc du coup je sais qu'il y aura une trahison.
Ouais, c'est pas très très malin.
Voilà, c'est toujours un petit peu tendancieux d'essayer de limite briser le quatrième mur là. Je veux pas trop mal juger cette affaire là, effectivement c'était plutôt plaisant. Et puis c'est assez surpris. Moi je suis surpris qu'ils insistent avec cette équipe là alors que je pensais vraiment qu'elle allait totalement disparaître. Et donc j'avais un peu râlé du fait qu'on la voit avoir une chance pour le titre, du coup. Pour moi, c'était des jobbers. Là, ils assistent un peu avec eux. Bah, pourquoi pas? Alors, allez, vas-y, je laisse une chance au produit.
C'est ça, mais c'est pareil, ça c'est un truc que j'aurais préféré voir à Monday Night Raw. Que ce soit Drake Maverick ou Killian Dane, c'est pas des mecs qui ont besoin de traîner encore à NXT. Ils étaient déjà dans le main roster il y a pas si longtemps, donc pour moi c'est prendre du temps d'antenne à des jeunes qui sont pour l'instant derrière les barrières à taper sur les plexiglas. En parlant de jeunes, les Chinois, on les avait oubliés. Xiali, Boa et leur chef, elles font un segment pour le public chinois, hein, parce que moi j'ai rien compris. Je sais pas toi. Mais je crois soit leur chef s'appelle le Tianlan, soit c'est le nom du clan.
Ah, moi j'ai l'impression que c'est leur chef.
C'est leur chef.
Alors moi j'ai compris ça comme ça. J'avais l'impression qu'ils nous présentaient, qu'ils nous disaient qu'en gros leur chef allait bientôt débouler et péter des gueules. Donc je me suis dit, putain, ça y est, la pauvre Shelly, elle était repackagée, elle va passer directement au statut, comment s'appelle ça, femme de main, du coup, en l'occurrence.
Ouais.
Si c'est le nom d'un clan, à la limite ça m'irait mieux. Par contre, si c'est le nom de la chef et puis qu'en fait c'est la chef qui a catché à partir de maintenant, je serais un poil dessus pour Xiali, que je trouvais qu'elle était super bien repackagée, quoi.
Ouais, du bon boulot avec Xiali. Boa, ils l'ont toujours pas trop exploité, on va peut-être faire quelque chose avec.
Est-ce qu'il s'est catché?
Est-ce qu'il s'est catché? C'est un rookie, hein, lui aussi. Et même la chef, hein, je sais pas qui c'est, moi.
Aucune idée.
Je suis pas sûr qu'elle ait non plus une grosse... Que si c'est une chinoise, elle doit pas avoir un background énorme. À voir.
Le seul chinois ou chinois, enfin, chinois-chinoise, la seule qui catchait, c'était Xiali jusque-là, en fait. Donc,
ouais.
C'est pour ça d'ailleurs que son repackaging marche bien, parce que du coup, elle, tu la fous dans la ligne direct, et puis elle pète des gueules, et puis ça déroule direct, quoi. Les autres, effectivement, c'est mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire.
Ouais. Alors le segment lui-même, c'est ils sont dans le noir, on voit juste leur tête comme ça qui dépasse, comme dans les clips de Queen, dans le Bohemian Rhapsody. Ils tentent des trucs, hein, à NXT niveau réalisation. Comme par exemple la suite avec Isaiah Swerve Scott, l'ingénieur du son, et qui lance un défi à Leon Ruff. False Count Anywhere, demande-t-il. Parce que ça y est, il prend Leon Ruff au sérieux.
Ouais, anywhere, mais si ça pouvait être autre part qu'à l'écran, ça serait quand même.
C'est ça. Allez vous battre ailleurs.
Voilà. C'est où?
False Count Elsewhere. Oui, on n'a vraiment pas envie de voir ça, mais c'est programmé pour la semaine prochaine. Tiens, Tony Storm. Je sais que tu l'adores.
Ah oui.
Elle arrive au ring, elle prend le micro, elle critique Zoé Stark. Hein, elle dit Zoé Stark devrait la remercier, puisqu'on se souvient que Zoé Stark a battu Tony Storm dans le pré-show de NXT TakeOver, ce qui lui a fait un peu de publicité, du coup, parce que c'est quand même pas rien de battre Tony Storm. Voilà, c'est moi qui t'ai rendu célèbre, mais je vais me venger, et pas plus tard que tout de suite, là, quand je vais exploser cette rookie, regarde bien, parce que c'est un peu comme si je t'explosais toi. Et donc, s'ensuit, c'est parti pour un squash. Hein. Son adversaire s'appelle Zeda Ramier. Et donc, elle commence à la démolir un peu dans tous les sens. Elle va la placer sur la troisième corde pour placer son finisher, le Storm Zero, qu'elle refuse de faire au sol. Hein. Elle est sur le point de conclure le match, mais elle se ravise. Elle dit non, je vais aller faire le Storm Zero depuis la troisième corde, hein, le coin du ring. Et là, il y a Zoé Stark qui débarque. Ça distrait Tony Storm qui se fait contrer. Elle tombe au sol et là la rookie Zeda Ramier va nous faire un shooting star press dégueulasse. 1, 2 et 3, victoire de la rookie, défaite de Tony Storm. La rivalité n'est donc pas terminée entre Tony Storm et Zoé Stark, et on est un petit peu lancé sur une losing streak pour Tony Storm, visiblement, avec cette défaite façon 1-2-3 Kid face à Razor Ramon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je crois qu'effectivement, t'es pas trop fan de Tony Storm, toi.
Non, et en fait, c'est marrant parce que je suis pas d'accord avec toi sur le finish. Moi, je trouve que le shooting star est pas mal. Par contre, c'est le bon buteur qui est dégueulasse, quoi. Elle n'arrive pas à l'attraper. Donc, t'as Tony Storm qui est obligé de lever elle-même la jambe pour dire vas-y, copine, attrape-moi la jambe pour faire le tomber, connasse. Mais voilà, moi, je trouvais que le shooting star était pas si mal, franchement. C'est vraiment le tombé de l'art qui est pas beau.
C'est toujours beau de faire un shooting star, mais
Ouais, mais en tout cas, surprise.
Ouais, voilà, surprise.
Surprise qu'une rookie te fasse un shooting star et gagne le match, quoi. J'étais surpris. Et justement, comme tu disais, je n'aime pas Tony Storm, mais en fait, je n'aimais pas Tony Storm parce que je ne comprenais pas qu'on nous la foute directement en main event. Attention, c'est elle qui a cherché la ceinture, alors que pour moi, elle représente rien. Et elle montrait pas non plus grand chose en ligne, parce que c'est pas comme si c'était un Monster Hill qui arrivait, qui cassait des gueules à tout le monde. Non, c'était juste Tony Storm, mal dégrossi, là, qui débarque et puis qui pour moi, n'est pas impressionnante, quoi. Et puis, du coup, là, pour le coup, bah, je lui accorde un peu plus d'intérêt parce que, bah, ils reconstruisent une histoire où, bah, elle est heal et puis elle perd. Et puis, enfin, bon, c'est du classique de chez classique. Mais au moins, j'ai l'impression qu'il m'explique pourquoi elle est heal et qu'il m'explique pourquoi j'ai un intérêt à le voir catcher, tu vois. Et qu'avant, on me l'impose, tu vois. Donc, bah, moi, je préfère qu'on me la vende plutôt qu'on me l'impose. Et donc, du coup, bah, j'ai plutôt finalement apprécié ce segment. Puis, bah, j'attends de voir la suite parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, j'aime bien The X-Stark. Donc, bah, la voir dans une rivalité, ça m'intéresse.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est bien de passer par là pour Tony Storm. Effectivement, elle est arrivée à une grosse renommée de l'indie. Maintenant, c'est pas parce que tu as une grosse renommée dans l'indie que tu dois griller la priorité à tout le monde. Et effectivement, il faut faire ses preuves. Alors, dans l'indie, effectivement, elle était plutôt populaire, plutôt babyface. Mais quand on arrive à la WWE, vu le niveau de la division féminine, tu peux pas débarquer comme ça et essayer de. Enfin, on peut pas, voilà, comme tu dis, on peut pas nous la vendre comme ça d'office, comme la challenger numéro 1. Il faut faire ses preuves, même si on a cartonné dans l'indie. Je rappelle que. Comment s'appelle-t-elle, la pequin chien?
Ruby Riott.
Ruby Riott aussi, c'était un grand nom de l'indie. On voit ce que ça donne. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, honnêtement. Nikki Cross aussi, hein, par exemple.
Encore que Nikki Cross, elle aurait pu. Hein. Je pense qu'ils ont... Bah après, je crois que c'est elle qui n'a pas choisi sa chance, soit ceux qui ont perdu confiance en elle, mais à un moment, au tout début du confinement, quand c'était vraiment la merde, bah je trouvais qu'elle tirait un peu son épingle du jeu.
Mais ouais, bon. Ouais, bah oui, non, bah elle tient quelque chose, Nikki Cross, clairement, avec son personnage de foufou, mais ou même avec ce qu'elle est. Mais ceux qui ont été un peu pushés au début du confinement, ça n'a pas porté fruit derrière, hein, malheureusement.
Ah bah non.
Mais ça restera dans les brouillards de l'histoire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là qui avaient pourtant répondu présent, hein, tous. Il faudra rendre des comptes un jour.
Les Français veulent savoir.
Les Français veulent savoir. Ouais, bon, ils faisaient bosser quand même à l'époque, ils faisaient bosser que les étrangers et les noirs. Et les Mexicains. Bref, en parlant des Mexicains, Legado del Fantasma, ils font aussi une petite promo, étrangement montée, étrangement filmée. Ils vont gagner leur titre, hein, ils nous disent. Donc, petite cruiserweight pour Santos Escobar et visiblement les deux autres ils visent le titre tag team, hein, évidemment. Yes. Et on est content parce qu'on les aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as pensé toi de la petite promo, parce que c'était vraiment filmé en contre-plongée, il y avait du montage, c'est pas le genre de truc qu'on voit à la WWE d'habitude.
Ouais, si sincèrement j'ai pas accroché plus que ça.
Ouais.
C'était ce genre de promo. Alors effectivement, la façon de filmer était un peu originale, mais par contre, vu que c'était juste pour nous booker le main event qui était déjà annoncé, j'ai pas forcément fait plus attention que ça.
Ouais, puisque ce soir effectivement, on a alors c'est Joaquin Phoenix et comment il s'appelle l'autre, Raul Mendoza.
Ouais, c'est ça, Raul.
Voilà, contre les champions. MSK, je dis c'est ça hein, qu'on a en...
Mais non, c'est les 3 contre 3 du coup.
C'est le 3 contre 3, ben oui.
C'est le champion Cruiserweight et les champions tag team versus Legado del Fantasma.
Voilà, une triple frite contre triple frite.
Voilà.
Bon bah ça, ce sera le main event, on en reparlera un peu plus tard plutôt que de raconter de la merde comme je le fais là tout de suite. Bronson Reed arrive au ring, il croise The Way sur son chemin. Ce soir, il affronte Austin Theory, mais d'abord, on a une promo de LA Knight, parce que sinon, il se passe rien pendant près de 3 minutes, alors ça va pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit qu'il n'y a rien de mieux que LA Knight, LA Knight, et que ça, c'est un fact of life, comme on dit. Je ne sais plus contre qui il en a, mais c'est peut-être Bronson Reed, d'ailleurs. Et en parallèle, il y a Everrise qui débarque avec leur tasse à café. Là, ils nous expliquent qu'ils ont un show sur les réseaux sociaux. Alors, ils demandent à l'intervieweuse qui est là, tiens, tu veux parler de notre show sur les réseaux sociaux? On dit non, je ne sais pas. C'est pas le programme, merci. Je me casse, l'interview est finie. C'était un peu la loose pour Everrise, mais on est content.
Comme tu disais, il y a beaucoup de segments qui s'enchaînent. C'est peut-être pour ça, alors que je n'ai pas forcément tiqué sur le truc des Legado et le Fantasma, ni sur aucune des deux interviews que tu viens de citer, parce que du coup, au bout d'un moment, de voir les mecs se succéder au micro les uns après les autres, ça m'a rappelé un peu, tu sais, l'avant-mania, là, quand il y avait le problème de pluie, et que du coup, ils étaient obligés de combler en foutant un peu tout le monde au micro. Mmh. Autant avant Mania, bah, j'avais su parce que du coup j'attendais Mania et tout, j'étais chaud, puis je me disais putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Autant là, bah, du coup, au bout d'un moment, les mecs derrière le micro, ras-le-bol quoi.
Ouais, c'est un peu. Alors, je suis quand même curieux de voir s'ils vont prolonger l'expérience un peu plus loin, voir s'ils vont réussir à maîtriser le truc et avoir une émission qui a plus de rythme. Parce que moi, je trouve quand même que NXT, depuis que c'est à la télé, avec la bonne demi-heure en plus, c'est quand même, je trouve, sacrément indigeste. Moi ça me rappelle un peu les fédérations un peu concurrentes comme la TNA dans ses grandes heures ou la WCW quand c'était le bordel avec vraiment plein de séquences qui s'enchaînent comme ça, donc je suis curieux de voir, ça peut générer des trucs sympas, mais il faut voir s'ils vont continuer l'expérience ou si c'était que cette semaine quoi.
On verra bien, leur rythme aussi quoi, à voir. Peut-être que là sur le coup ça a saoulé parce que justement j'étais pas trop habitué puis que bah il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas grand chose à dire. Peut-être que s'il y a des rivalités qui se mettent en place et puis des histoires un peu, ça va peut-être devenir plus sympa d'un coup.
Ouais, à voir. À voir. Et à voir aussi l'arrivée de Tonton dans nos studios.
Non!
Si!
Si! El Tonton!
Ah, il a entendu Everrise, il direct il se pointe, quoi.
Ouais, j'ai vu la lumière, j'ai entendu NXT, j'ai vu clignotant noir et jaune, j'ai dit il y a un ringside des papis qui sont dans la place, vite faut que je les rejoigne. Bam, je me suis tapé le genou dans la table, donc je me suis aïe. Blessé, voilà, je suis monté sur un brancard, tout ça, j'ai été emmené dans le locker room, soigné, je reviens en boîte en bas, mais je suis avec vous mes amis. Alors évidemment je ne sais absolument pas où vous en êtes, vous connaissez la procédure peuple de catch-up quand j'arrive en retard, je ne sais rien, je découvre tout.
Alors je suis bien curieux de savoir si tu vas réussir.
Qui est le host?
Bah, c'est Ringside.
Ah ouais, attends, je connais quand même.
Il parle de lui à la troisième personne maintenant.
La question ne se te pose pas.
Je te signale que je t'ai remplacé au pied levé la semaine dernière, jeune homme.
Oh, si on peut plus être malade.
Ah bah non, c'est interdit par la charte.
Interdit, c'est vrai que de nos jours, mieux vaut avoir la santé.
Exactement. Alors vous en êtes tout, mes amis. Papy est donc le consultant de choc. Et notre ringside est donc le host de Quality. Mais alors, exactement. Où en sommes-nous dans ce
NXT? Ils ont débriefé des segments micro, là. Tu aurais tendance à un segment micro.
Ah ouais. Everrise. Hein, les réseaux sociaux, toi qui es un grand fan des réseaux sociaux. C'est un peu ton concurrent, Everrise. voilà. Non, on parlait un petit peu du fait qu'il y avait vraiment beaucoup de segments qui s'enchaînaient très vite dans ce NXT.
Ouais, beaucoup de segments micro, beaucoup de promos backstage, beaucoup de packages vidéo. Ça ressemblait un petit peu à Raw sur certains. J'ai l'impression qu'ils sont en train de grignoter petit à petit le temps de catch. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais sur les deux heures d'émission, on n'a quand même pas eu des matchs très très longs, globalement. Parce que je ne sais pas où vous en êtes, alors dites-moi à quel moment.
On ne tient pas le timing des matchs.
Ah, vous
on est à Austin Theory, va affronter.
Vous n'avez pas encore fait le match Austin Theory, donc vous avez fait Zayda face à Tony Storm.
Voilà, la victoire
surprise, voilà. Et puis le Mercedes Martinez contre.
Voilà.
Qui a duré quand même 12 minutes 30. Donc,
c'était quand même un match conséquent.
Ouais, c'était un opener de quality.
Voilà, après on a un squash assez rapide qui termine sur une victoire surprise.
Oui.
Ça, c'est cohérent aussi. Et puis là, on va enchaîner sur un gros match, du coup, avec Theory et Bronson Reed.
Enchaînons, alors.
Avec The Way, qui débarque pour accompagner Austin Theory. Indy Hartwell qui fait la gueule, elle n'est pas contente puisque les championnes tag team ont reçu des fleurs de la part de son amoureux Dexter Lumis. Donc le combat démarre, Bronson il va sécher Austin assez rapidement. Il manque de tomber à l'extérieur ce bon vieux Austin, mais il est rattrapé par ses pieds. C'est assez ridicule, hein. Bronson va descendre à l'extérieur du ring, exploser un petit peu The Way. Quand il remonte dans le ring, il va se faire cueillir par un rolling drop kick à 2 mètres du sol, voire 3 mètres de théorie, là, super impressionnant. Par contre, Bronson Reed ne va pas vendre le truc. Ensuite, il y a un saut de l'ange à l'extérieur du ring d'Austin sur Reed, après une agression de Gargano, hein, qui dans le dos de l'arbitre sur Bronson Reed. Hein, il va faire un petit peu des interventions comme ça, ce bon vieux Gargano. Encore un impressionnant rolling blockbuster là de théorie, il sort des prises incroyables ce mec. Une tentative de souplesse sur le gros Bronson, ça ne fonctionne pas, c'est contré. Là-dessus, il y a Dexter Lumis qui débarque. Évidemment, il vient pour mater le cul d'Indy un petit peu, qui était penché aux abords du ring. Alors, il se court un petit peu après, silencieusement. Ils vont monter dans le ring. Là, il y a Indy Hartwell qui dit « Mais tais-toi, tu parles trop. You talk too much. » Ça me rappelle une émission.
Tout à fait.
Et, ouais. Et là, il y a Bronson Reed qui va quand même reprendre le contrôle du match. Ça va se télescoper un petit peu entre Austin Theory et Indy Hartwell, je crois, ou Dexter Lumis.
Non, Lumis. Lumis,
Lumis le, voilà. Là, on va pas taper une femme. Voilà, ça va suffire à Bronson pour prendre l'avantage et finir le match avec un gros frog splash des familles, super impressionnant. Et Bronson Reed est le nouveau challenger pour le titre nord-américain de Johnny Gargano. Il y aura une petite séquence après dans les vestiaires où tout le monde s'engueule. Et on cherche à qui est la faute. Hein. Donc évidemment, c'est la faute des championnes tag team, nous dit Candice LeRae. Et donc, il y a une riposte qui va s'engager, Indy Hartwell et Candice LeRae, qui vont sûrement affronter les championnes. Je crois que c'est programmé d'ailleurs pour la semaine prochaine.
Yes, match pour le titre.
Voilà. Et donc, c'était le gros segment. The Way, Dexter Lumis, Bronson Reed. Il y a même LA Knight qui est dans le coin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gros Blue Bee Ball Gab, un tonton là, maintenant que t'es arrivé, dis-nous tout.
Eh bien, j'en ai pensé plutôt du bien, globalement. C'est une rivalité qui est dans la continuité, là. Donc là, ça fait quelques semaines maintenant que tout tourne autour de The Way, de Dexter Lumis, de l'affaire avec Indy Hartwell, de Bronson Reed et compagnie. Donc ça donne quelques matchs, ça donne des mix-matchs. Maintenant, ça donne des matchs comme celui-ci. Je suis plutôt client parce qu'en fait, je suis surtout client de Bronson Reed pour le coup. et j'aspirais à ce que ce gars grimpe. Et là, c'est le cas. Je pense qu'il est bien lancé. Je trouve que c'est amplement mérité qu'il devienne number one contender. Après, le reste, bon, bah voilà, on aime, on n'aime pas. Il y a du soap opéra un peu là-dedans. Et puis, il y a Johnny Gargano, il y a The Way. Enfin, on fatigue un peu, surtout avec Johnny Gargano. On a l'impression qu'on s'en sort plus. Il est partout, cet homme. Les weekly, les takeovers, il envahit tout. Il est mis dans un espèce de rôle. Alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais par moment, en fait, moi, pour moi, comme Johnny Gargano, il est carrément en train de glisser dans un rôle de comédie wrestler, quoi. Et finalement, au-delà du catch, alors il est encore solide entre les cordes, mais dorénavant, je trouve qu'il fait son âge, quoi, finalement, comme Tommaso Ciampa, un peu, ces gars-là, on se dit, ouais, bon, bah ok, c'est les vétérans du roster jaune, quoi. Donc voilà, donc bien content de voir Bronson Reed en haut de l'affiche, bien content de ce petit push. Austin Theory, je l'ai trouvé pas dégueu pour finir sur lui. Le match a duré 9 minutes, quand même, alors voilà, avec tout un tas d'interférences, d'interventions, de psychologie de soap opéra, comme je disais, mais c'était plutôt sympa, c'était plutôt divertissant. C'est sûr, on a vu beaucoup mieux, mais au final, c'est un match de mid-card dans un weekly de NXT, donc pourquoi pas.
Toi, papy, je sens que tu vas prendre la défense de Gargano quand même.
Bien sûr, je vais prendre la défense de Gargano. Non, mais j'espère que Gargano a regardé son petit copain catché, son élève catché, parce qu'en fait, finalement, je trouve que notre ami Theory fait plus, maîtrise plus la partition de Hill que Gargano. Puisque il nous a fait la totale du j'ai mes copains qui m'aident et ci et ça, et à chaque fois qu'il y a une intervention, hop, je reprends le dessus. Là, au moins, c'était clair, c'était propre. En plus, moi, j'aime bien Catcher Theory. Là, pour le coup, autant j'aime pas Gargano, autant j'aime bien Theory. J'aime bien Reed aussi. Donc, pour le coup, c'était une position qui me plaisait. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, vous avez tous les deux spontanément comparé NXT à Raw. Et puis, bah, je vais faire la même chose. Comme pour Raw, où j'ai trouvé que les matchs féminins sont parasités par les histoires de Nia Jax qui tombe sur son cul. Bah, là, je trouve que ce match-là, il aurait été très bien avec les interventions qu'il y a eu sans Dexter Lumis. Dexter Lumis, moi, pourtant je l'aime bien, mais j'en peux plus en fait de lui. Je suis en train de faire un rejet complet du fait qu'il soit utilisé que pour des segments hors catch et il catch jamais. Là, il marche et puis si, puis ça, il fait de la psychologie. Je pense qu'il n'en a absolument pas besoin parce que cette partie, elle la maîtrise déjà. Par contre, j'aimerais bien le voir catcher ce garçon. Et donc, bah maintenant, dès que je le vois, bah je fais un rejet complet. Et ça me saoule. Donc voilà, c'est dommage parce que je trouve que ça gâche le match. Il n'avait vraiment pas besoin de cette histoire-là en plus. Donc, et puis voilà. Mais je reviens là-dessus. Gargano, qui retienne la leçon, bah, quand t'es heel et que t'as un clan, et ben, quand t'as un match, et ben, tu tardes ton clan et puis tu triches, puis tu fais tout ce que tu peux pour ne pas catcher. Tandis que Gargano, quand il catch, et ben, lui, il faut toujours qu'il se montre Johnny Wrestling, mes couilles. Pardon pour le gros mot. Et qui essaie de catcher propre. Non, moi je veux, je veux qu'il catche sale. Voilà, comme Théorie l'a fait.
C'est ça. Ouais, je rejoins un peu Papy. Moi, pour moi, Gargano, pour répondre à la question, la comédie wrestling, il fait du Chris Jericho. Il essaye de s'imposer comme le vétéran du roster qui va se mettre en avant les jeunes avec un clan et en faisant un peu le clown, mais en même temps sortant des matchs 6 étoiles entre guillemets quoi. Sauf que Gargano, c'est pas Chris Jericho quoi. Il a pas la carrière de Chris Jericho, il a pas non plus le talent de Chris Jericho, surtout pour l'improvisation, l'humour et les choses comme ça. Ce qu'il a Gargano, c'est un excellent in-ring, c'est un excellent cruiserweight, c'est un peu comme Rey Mysterio, comment on appelle ça. Le petit qui va gagner, quoi, l'outsider.
L'underdog.
L'underdog, voilà, c'était ça le terme. Mais sinon, c'est pas très convaincant. Là, en leader de clan, il est un petit peu marrant, mais pas tant que ça. Je pense pas qu'il aide vraiment les mecs avec qui il est en train de créer ces histoires-là, parce que pour moi, théorie. Il a quand même un potentiel énorme. Je le vois en babyface, quoi, théorie. Hein. Il faut, vu le physique qu'il a, vu le catch qu'il a, même si là, il s'en tire très bien, effectivement, en heel, et il fait ce qu'il faut avec de la tricherie et tout ce qu'il faut. Il était même un très bon heel à la Evolve. Vu le physique qu'il a, vu le catch qu'il a, moi, je le ferais partir en babyface, et Bronson Reed, il serait aussi un heel parfait. Souvent, le problème de NXT, ces espèces de heel qui devrait être face et de face qui devrait être heel. Hein. Les alignements, je trouve ça vraiment bizarre à NXT, en règle générale. Et bah là, ça paye. Après, honnêtement, ils ont bien fait le boulot quand même. Quoi. Le match était cool. Les prises de théorie, elles sont quand même super impressionnantes. Bronson Reed aussi, son splash là à la fin, et c'est vraiment un bon big man aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour ces catcheurs. Gargano, c'est un mec qui m'a fait rêver pendant des années, mais sa place, elle est plus à NXT. Hein. Je pense qu'on le respecte, on le répète toutes les semaines, mais c'est plus sa place, NXT. Hein. Je suis désolé. Hein. Surtout en champion, en plus. Voilà ce que j'avais à dire sur ce segment. Eh ben, on enchaîne. Ça vous va ? Kushida et les Mesquines en interview. Donc le champion Cruiserweight, les champions tag team, ils nous parlent du main event, ils sont tous gentils, pourquoi on ne s'appellerait pas MS Kushida ? Kushida ne parle pas anglais, All Night, All Day, ils peuvent tenir. Voilà quoi, ça c'est pour nous teaser un petit peu le main event.
Mais au moins il essaie un peu, depuis deux semaines, le Kushida, il essaie, depuis qu'il est champion d'ailleurs, il essaie un peu de... Je trouve que c'est moins le japonais random.
Ouais.
Il essaie de baragouiner 2-3 trucs. Moi, je salue l'effort.
Ouais. Ils essayent de trouver la bonne formule avec Kushida. On va voir qu'ils sont revenus sur certaines choses un peu plus tard. Finn Bálor est à la plage mexicaine. Fils de pute. On est content pour lui.
Bam,
hein,
avec sa allez, meuf,
Ah, non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir les photos de vacances de Finn Bálor?
Ah, je suis bien d'accord.
Qu'est-ce que ça nous rappelle
à part il était où déjà? Rappelle-moi, là, dans quel pays il était, là?
Au Mexique, hein, si j'ai bien compris.
Ah, il était au Mexique. Oh, bon,
voilà, chez Madame, non?
Chez Madame, là.
À Acapulco ou... Ah, chez Madame. Madame est mexicaine. Ah, il a de bon goût, ce Finn Bálor. Je reviens sur ma première
année. Il me semble hein, qu'elle est mexicaine, sa femme.
Il peut y avoir un petit peu de ça. Ouais, si, elle bossait à la WWE, elle était intervieweuse et tout. Je sais
pour un média mexicain, et elle travaillait un peu comme Ajus et Chiro chez nous, quoi.
Ouais.
Côté Mexique, il me semble.
D'accord, ok.
Ok. On fera un point sur sa compagne.
Voilà. Fact-checking, s'il vous plaît.
Ouais. On aurait préféré voir des photos d'elle plutôt que de Finn Bálor. Alors apparemment il veut revenir affronter Karrion Kross quand tu seras de retour de vacances, peut-être s'il y a une place pour toi, Finn Bálor.
Bah ouais, je suis déçu de voir qu'il reste NXT. Après, la suite du programme me fera voir que tout, enfin me fera comprendre que de toute façon manifestement il est destiné à tomber sur Karrion Kross. Parce qu'ils n'ont pas décidé de trop bouger les rivalités finalement.
Ouais. On verra ça encore un peu plus tard parce qu'il y a encore plein de choses. Maverick et Killian Dain contre Imperium. Alors l'histoire, c'est est-ce que Maverick va réussir à faire le changement, veut faire le hot tag avec Killian Dain. Évidemment non. Hein, au moment donné, après qu'il ait pris la hit par Imperium, au moment où il veut faire le tag, Killian Dain n'est plus là. Il a été frappé par le Marcel Bartel.
Ouais.
L'autre question du match, c'est est-ce que Alexander Wolf va frapper Killian Dain avec une chaise. Il le fera pas non plus. Il va se raviser, il s'engueule un petit peu avec Marcel Bartel, mais ça suffira pas. C'est quand même la victoire d'Imperium avec leur Dominator là, ou leur Electric Chair, enfin leur prise impressionnante. Gros match quand même. C'est toujours bon hein, de toute façon, Imperium. Qu'est-ce qu'on en pense, papy?
Ouais, il m'a fait des nœuds au cerveau ce match-là, parce que entre est-ce que machin va traire Bidule ou est-ce que Bidule va traire machin, alors t'avais Drake Maverick qui a peur que l'autre le trahisse, mais en fait non, l'autre il avait peur que l'autre pense qu'il veut le trahir, mais du coup il y a son ancien copain de Sanity qui va peut-être le trahir ou pas, on sait pas. J'avais le cerveau qui fumait à la fin là. Mais bon, c'était qui fume à la fin, mais de façon un peu positive du coup, parce que comme je disais, moi c'était Drake Maverick et Killian Dain, c'était des gars sur qui je misais pas du tout, et puis du coup qui sont finalement un peu utilisés, puis qui ont leur petite histoire, et ça m'intéresse un peu parce que du coup c'est Alexander Wolf qui me perturbe là, parce que je ne sais pas du tout quels sont pas ce garçon. Il se présente un peu comme le chef d'Imperium en l'absence de Walter là, qui est parti faire des athémies à des pauvres enfants qu'il leur a demandé. Mais lui, du coup, c'est le chef, mais en même temps, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Quoi. Donc je suis interloqué par son positionnement. Sinon, le reste du match était plutôt sympa. Ils sont bien envoyés. Maverick, bon, qui recule, qui va faire un tag reculant pour ne pas voir que Dain se fait attaquer, c'est un peu mal joué, j'ai trouvé.
Ouais, tout match ça.
Mais c'est tout match. Ils auraient pu faire 100 parce que, surtout qu'après, finalement, ils font équipe quand même, donc ça n'a pas eu d'intérêt. Mais voilà, c'était plutôt sympa. C'est plutôt enlevé. Et puis, pour le coup, c'est une rivalité sur laquelle j'aurais pas misé du tout, puis qui semble s'ancrer dans la continuité.
Ouais. Notons que Drake Maverick arrive à catcher avec son pantalon quasiment sur les chevilles.
C'est dingue, ouais, ça, hein, franchement. De l'agilité, ce garçon, de l'agilité. Écoute, moi, je suis plutôt client, oui. je l'avais signalé la semaine dernière déjà. Moi, je trouve que la tag team division à NXT, je la trouve encourageante et je trouve qu'il s'y passe pas mal de choses sympas. Il y a pas mal d'équipes. J'avais déjà dit la semaine dernière que j'étais fan du retour d'Imperium et je suis bien content de les revoir. Le petit match de 8 minutes. Dans une rivalité pour l'instant de mid-card, mais moi en fait je suis vraiment fan d'Imperium, donc j'espère, avec donc l'apport d'Alexander Wolf et puis la décision de Walter sur sa carrière américaine, oui ou non, que va-t-il faire, si vraiment il se lance complètement sur le NXT US, ça peut être génial d'avoir ce clan d'Européens qui vient casser des gueules et coller des athémies. Moi je suis carrément client de ça. Donc, et finalement, et ben, la paire Maverick Killian Dage commence à m'y faire de plus en plus. Et je trouve qu'ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux. Il y a, ça passe bien, quoi. Et finalement, voilà, il y a un peu de déconnade de la part de notre ami Drake. Mais Killian Dane reste quand même toujours bien, bien solide sur les appuis. Et ça me plaît plutôt bien. Donc, c'était un moment plutôt sympa, ce tag team match pour moi.
All right. Ouais, on enchaîne toujours avec les catcheurs européens. Pete Dunne est dans les vestiaires. Il jacasse un peu face caméra.
Il a lancé des défis cette semaine, lui. Il a lancé des défis cette semaine.
Ouais, c'est ça. Ah ouais, en plus.
Ouais.
Il a peur de personne. Il a pas peur de Karrion Kross. Donc, c'est fort possible qu'il aille affronter Karrion Kross à un moment donné. Il fait un peu des flous tout seul, quoi.
Qui tape à toutes les portes pour un match. Hein. Si tu lui donnes un match pour envoyer, tu prendras quand même. Hein.
C'est ça. Ouais, parce qu'il parle de Kushida aussi. Pourquoi pas.
Gargano, même les filles, si vous voulez.
Un match, donnez-moi un match.
Donnez-moi un match.
Et tu sais qu'il a lancé des défis à qui sur les réseaux sociaux? Tu saurais nous dire, tonton?
HMS, entre autres.
HMS, ah, ça je verrai bien. On arrive à la même conclusion. Pete Dunne, il a plus rien à foutre à NXT.
Et du coup, j'ai vu ce tweet avant de voir NXT. Et je me suis dit, ah, tiens. Et puis finalement, je vois NXT et puis je le vois qui lance des défis à peu près tout ce qui bouge en passant par sa grand-mère et sa grande-tante. Donc je me dis, ah bon, d'accord, ok. Bon, s'il lance 65 défis, effectivement, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais il y en aura peut-être un qui va y répondre.
Bah, il va ouais, Artruth, je pense.
Artruth, ouais. Futur champion 24/7. C'est mal engagé pour Pete Dunne. Hein. On sent le mec qui est un peu... qui veulent mettre à la télé, mais ils n'ont pas de projet pour lui, en fait. Il servira peut-être de serpillère à Karrion Kross. Envoyez-le dans le main roster, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, Shotzi Blackheart et Ember Moon viennent au ring pour un match. Elles doivent affronter Jessica Mea et Alia. Ils sont toujours avec leur manager. Les championnes se font attaquer par Indy Hartwell et Candice LeRae. Elles attaquent avec des gâteaux. Et Jessica Mea et Alia, elles fêtent un peu la victoire avec les ceintures, là, comme si elles avaient gagné les ceintures. Mais c'est pas le cas. En tout cas, il n'y aura pas de match au final, hein, puisque Shotzi et Amber se font vraiment défoncer là, par Indy et Candice. Déluge de violence, tonton, ça t'a convaincu?
Déluge de violence. Ouais, on a croulé.
Attaque au cupcake.
Ah ouais, c'était un peu ça, ouais. Ouais, ça, bon, c'est un peu moins. Ça me branche un peu moins, quoi, ce genre de choses, quoi. T'imagines bien. Je sais pas. Shotzi, vous en pensez quoi, Shotzi? Enfin, surtout toi, Ringside, en fait, parce que la vie de papy, je le connais un peu mieux. Mais du coup, comme j'avais pas fait la première avec toi de NXT, t'en penses quoi un peu de Shotzi, là?
Shotzi, le problème que j'ai, c'est son look avec son casque à pointe, là.
Ouais.
Et Korn, son tank, quand elle arrive au ring, je trouve qu'elle en fait trop. Et elle en fait aussi trop dans le ring. Elle fait des moves qu'elle ne maîtrise pas trop. Des dives qui sont trop dangereux, des choses comme ça. Elle est un peu petite, je trouve. Mais sinon, je trouve qu'elle se débrouille bien entre les cordes. Mais il y a une marge de progression, quoi. Vu que visiblement ils vont parier pas mal sur elle, du moins Triple H. Alors après, comment ça va se passer dans le main roster, je ne sais pas, mais apparemment elle a l'air d'avoir les faveurs de Triple H là à NXT. Je pense qu'on est amené à la voir pendant un bon moment, mais il va falloir progresser un peu dans le ring pour faire plus que du spot fest, quoi.
Ouais, d'accord.
C'est un peu...
Après, je trouve que l'association avec Ember Moon marche plutôt pas mal quand même.
C'est bien ensemble. Justement pour elle de passer par là avant d'être lancée.
Ouais, mais voilà, c'est ça en fait. C'est mon propos. Il est là en fait. C'est que je pense que Chelsea Blackheart, de toute façon, en individuel, pour l'instant, c'est pas possible. Ça passe pas. Mais avec quand même une nana qui commence à avoir de l'expérience comme Ember Moon, du coup, je pense que c'est plus simple. Ça lui permet de se mettre dans le moule plus facilement et ça va la faire progresser petit à petit, quoi. Donc c'est pas plus mal qu'on ait eu un couple de cette nature là.
Ouais. Mais physiquement, elle en jette, tu vois. Et,
elle a un look, quoi.
Elle a une attitude, mais alors il faut peut-être la driver un peu et puis pas aller dans la facilité. Là. Le truc avec le tank, c'est. Moi, j'ai du mal avec ça. Hein, et, voilà, essayer de la. Hein, doucement. Voilà, faut pas trop en faire parce que des fois, ça part dans le ridicule, quoi. Déjà qu'elle a les cheveux verts et tout, elle a un look comme ça naturellement où elle en jette, donc faut pas en faire trop. Bah en tout cas, on verra la semaine prochaine, je pense, si elles sont aptes à donner quelque chose. Papy, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter là-dessus.
Non, rien, si ce n'est que le ils font de la bataille de bouffe comme Arrow, donc décidément, c'est vraiment un exit dans la veine d'Euro. Et que bah comme Arrow, la bataille de bouffe, ça m'intéresse pas. Par contre, finalement, les deux couillons qui sont en train de faire la fête avec Robert Stone,
ouais,
pour le titre, ça va faire un petit coin de sourire en me disant ils sont vraiment débiles.
Ouais, ça c'est marrant quand même.
Moi j'aime bien les gens débiles.
Ouais. Donc, il en faut.
J'ai un côté de mon cœur qui bat pour les gens débiles.
Ouais, ça c'est des. Il faut les garder un petit peu dans le décor, ce petit clan-là de losers. Allez, l'interview de la soirée, Adam Cole, au bord de la piscine, interviewé par Arash Markazi, le journaliste sportif, le célèbre. C'est marqué, il est journaliste sportif en dessous. Alors, Adam Cole est au téléphone, il dit tiens, quand est-ce que ça commence? Alors, Arash Markazi lui dit bah, c'est commencé là, je tends sur vous. Donc ça démarre. Adam Cole nous rappelle un peu son palmarès. Il nous explique quand même qu'il n'en a pas fini avec Kyle O'Reilly, que Kyle O'Reilly n'est pas prêt pour le main event et que tôt ou tard, Adam Cole ira affronter Karrion Kross. Il nous dira pas quand, il veut pas dépoiler son plan de carrière. On ne sait pas s'il va monter dans le main roster, s'il va rester ici. Voilà, il n'a pas vraiment envie d'en dire plus. En plus, il fait chaud. Il en a marre. Et puis c'était quoi là, ce début d'interview où on le fait attendre pour rien? C'est ridicule. Il s'en va. Où est la sortie? Vous m'énervez. Et pendant ce temps, Kyle O'Reilly est dans une petite pièce sombre d'un bureau de la WWE en train de regarder l'interview. Donc visiblement, c'est pas fini entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. Est-ce qu'on va avoir le prochain takeover qui sera un remake du dernier takeover, mon bon papy?
Bah ouais, c'est ce que je crains, moi. Non seulement en voyant... Finn Baylor demandait à revoir Karen Cross et puis là voir O'Reilly qui regarde à la télévision Adam Cole qui ça m'a dit bah, c'est reparti pour refaire un takeover qui va permettre de refinaliser ces rivalités là. Moi personnellement j'étais plutôt partisan de tourner la page pour ces mecs là, notamment en passant une partie dans le main roster. Je pense qu'O'Reilly il a une histoire de babyface à raconter à côté NXT. Bon, leur m'école dans les pattes qui nous a fait une promo qui m'intéresse pas parce qu'en fait elle apporte strictement rien au personnage et à la rivalité. Voilà, c'est ça va être une redite quoi. Il rallonge la sauce, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il rallonge la sauce et du coup tous les espoirs qu'on avait de monter dans le main roster, bah,
chose à sauver.
Ah ouais, non, pareil, ouais, alors là même grosse déception, même carrément, hein, tu vois, franchement j'espérais complètement qu'on allait passer à autre chose, que chacun allait être lancé sur d'autres chemins. J'envisageais de toute façon pour l'un des deux une montée dans le main roster. Donc je te cache pas que là, moi, ça me pose un petit souci, en particulier de peut-être d'avoir encore Adam Cole à NXT, parce que on revient sur le syndrome Ciampa Gargano, et là qui est en train de s'attaquer dorénavant, en train de ronger les sangs de Adam Cole. Et ça, ça me plaît pas des masses. Alors après, je reste convaincu que Adam Cole, une montée dans le main roster pour lui seul comme ça, c'est très très complexe. Ça s'annonce très très difficile. Je ne comprendrai jamais cette dissolution de l'Undisputed Era et pourquoi ne pas avoir eu tenté le coup de mettre l'Undisputed Era dans le main roster, tu vois, les quatre. On peut noter Bobby Fish dans la liste des portées disparues de cette semaine puisqu'on avait pas mal de portées disparues à Raw. Donc là encore des portées disparues à NXT qui lui doit faire quand même sacrément la gueule dans son canapé avec une attelle sur une jambe.
Je me posais la question de savoir s'il avait été viré ou pas ou s'il
a apparemment non, hein, il est toujours actif hein, sur le roster WWE, donc écoute, Bobby Fish a pas fait partie de la charrette, mais pour moi là il y a un vrai souci là et franchement si c'est pour qu'on se remange tous les mercredis à NXT du Adam Cole et du Kyle O'Reilly comme ça pendant encore des semaines et des semaines, alors que pour moi en fait l'affaire était terminée depuis Takeover, Ça va être un peu compliqué. Je vous avoue que je vais pas être super client de cette affaire-là.
Ouais. Surtout que bon, Finn Balor, alors encore, on peut imaginer le démon qui arrive pour affronter Karrion Kross. Mais alors sur Kyle O'Reilly et Adam Cole, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que le dernier match qu'ils ont fait. Hein.
Bah non.
C'était un Holds Barred hyper violent qui a duré 40 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça, quoi?
Mais ouais, on était au bout là, on était au bout. Voilà. En catch, ça arrive. Il y a des rivalités qui arrivent au bout. Il y a une finalité. Et Takeover devait être cette finalité là. Il y avait pas d'ambiguïté possible. Et moi, je trouve que c'est du gâchis. Et que voilà, ce fameux syndrome qui est en train de s'installer à NXT. Et ça, je trouve que pour la troisième brand, pour normalement la ligue un peu de développement, je trouve que c'est pas génial, quoi.
On veut voir des nouvelles têtes à NXT.
Et oui,
ils sont
oui.
là depuis 5 ans.
Oui.
Faites-les monter dans le main roster. Et puis tant pis s'ils se cassent la gueule, hein, on aura tenté.
Complètement. Moi, c'est ça que j'attends de NXT. Et c'est ce qui m'a ravi dans ce show pendant des années et des années et des années. Et qui là, moi, ça fait 2 ans là.
C'est le passage télé, hein.
Oui, alors le passage
télé. J'avais dû passer ça à la télé, hein. On savait bien quand c'était sur le network, ça fonctionnait parfaitement.
Ouais, c'est évident que le passage télé a entraîné tout un tas de modifications dans la production et tout ça, mais bon, c'est compliqué. Ils ont besoin de star power quand même pour vendre le truc.
Ouais, c'est ça. Ouais, ils peuvent plus se permettre d'avoir que des inconnus à l'écran, comme c'était le cas sur le network.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc forcément, ça impose des trucs, mais du coup, c'est pas si facile de faire un weekly de catch, hein, et qu'il soit toujours super entertaining. Voilà. Bah, j'espère que Kyle O'Reilly va pas trop en pâtir, parce que s'il démarre avec une rivalité réchauffée comme ça pour son push de babyface.
Ouais, Kyle O'Reilly, enfin, je sais pas ce qu'en pense Papy par exemple, mais Kyle O'Reilly tout seul dans le main roster, j'ai peur qu'il nage avec les requins, le garçon.
Mm. Pour moi, Kyle O'Reilly, vers son année de parcours solo à NXT, ouais, avant de viser justement le main roster. Là, c'était l'occasion pour lui d'être solo, babyface, et tenter un truc nouveau, puis bah, justement d'acquérir les armes qui me serviraient dans le main roster, quoi. Ouais. J'espérais pour lui qu'il aille faire autre chose que la rivalité avec Adam Cole, en fait. Et c'est surtout Adam Cole qui me dérange dans l'affaire, hein, parce que Adam Cole, en fait, pour moi, pour le coup, il a vraiment tout raconté. Il a déjà été en solo, parce que c'est un peu le leader de l'Undisputed Era, donc il a quand même beaucoup de matchs en solo. Il est toujours heel. Je vois pas du tout ce qu'il peut raconter de plus. Alors, à moins qu'il nous sorte un gros retournement de situation quand dans la rivalité, genre l'arrivée d'un clan, l'arrivée d'un nouveau catcheur, ou j'en sais rien, un truc qui explose d'un coup sur les restes de cette rivalité. Et si c'est juste pour nous faire Adam Cole méchant qui se bat contre O'Reilly, effectivement, je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de plus que le gros match qu'ils ont déjà eu, quoi.
C'est ça. Il est temps vraiment pour Adam Cole de monter dans le main roster, hein. On le dira jamais assez. Si on pas Cole, Gargano, hop. Une petite montée, puis Finn Balor, renvoyez-le aussi au main roster.
Oui, Finn Balor, je pense qu'il est temps aussi. Et Breezango.
Et puis moi, je dirais Kenyon Dane et Drake Maverick aussi. Mais il parlait à une époque d'avoir un nouveau show donc qui serait du coup l'équivalent de ce qu'était NXT à l'époque. On croise les doigts, hein, on aura peut-être ce show qu'on attend. On verra enfin les nouvelles têtes des gens qui sont coincés derrière le plexiglas là, depuis le début du confinement. Les pauvres. Ça doit être une drôle d'ambiance au PC, hein, parce que les mecs ils doivent s'entraîner, sachant qu'ils s'iront jamais à la télé, quoi. C'est à part à faire la claque dans le public.
Regarde, t'as la petite jeune qui a fait son sous-jeu shooting Star Press là.
Ouais, par exemple.
Elle était derrière les vitres, je pense, celle-là.
Ouais, bah voilà. Et après, t'as quoi? MSK, ils ont grillé la priorité à tout le monde. Kushida, pareil, il vient pas du PC là. Qui c'est qu'il y a d'autres? Drake Maverick, ça fait 6 ans qu'il est là. Killian Dane, pareil. Il y a vraiment pas de place pour les nouveaux, quoi. Il y a juste Indy Hartwell, on va dire, et puis c'est quasi
la grande duduche là qui est avec Aliyah.
Voilà, elle a droit à sa place aussi, mais sinon c'est que des gens qui sont là depuis pas si longtemps que ça, hein. Les Dexter Lumis, ils ont grillé la priorité à tout le monde, même Bronson Reed, voilà, tout ça c'était des gars de l'Indy qu'ils ont mis à la télé assez rapidement, hein. Pendant ce temps, il y a les autres qui rongent leurs freins de leur côté. Easton Theory, j'en parle même pas. Il était à WrestleMania, le mec. Bref, ça doit être une drôle d'ambiance au PC, je pense quand même. C'est l'heure du main event, les enfants.
Et t'as pas parlé de... Alors, juste parce que je sais pas si vous en savez plus vous, du petit segment sur l'espèce de truc qui... avec des mecs qui... dans une espèce de salle de sport là, qui se tapent dessus.
Alors ouais, il y a un segment vidéo, mais alors bizarrement, moi je l'ai pas vu dans le...
Ah ouais, le Diamond, le Diamond, c'est ça,
ouais,
vous parlez de ça. Là.
Diamond Machin, ouais. Ouais.
Diamond Fabric, je crois, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Le truc, c'est que moi, je l'ai pas vu en regardant NXT. Je l'ai vu, je crois, sur le Wrestling Observer ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ce segment un peu bizarre. On nous explique pas tout. Hein. On voit des mecs qui s'entraînent dans un truc de MMA, un camp de MMA, Mixed Martial Art. Donc voilà, apparemment, je sais pas si c'est un clan, si c'est une nouvelle émission.
Bah moi, je pensais que c'était une nouvelle émission, mais sur le Discord, ça parlait plutôt d'un clan. Donc
j'ai pas plus d'infos.
Je sais pas si vous en avez plus, non, personne ne sait.
Tonton, t'as rien vu passer, toi, de spécial là-dessus, plus d'infos?
Non, là, je vous avoue que là, pour l'instant, pas de colle, mais je vais y regarder en même temps pendant que tu continues à expliquer.
Ouais, voilà, si t'arrives à avoir quelque chose d'ici la fin du truc, mais c'est un peu cryptique, c'est un peu. Voilà, bah, comme vous voyez, on n'en sait pas plus. Mais,
mystère.
Mais en tout cas, c'est axé autour du MMA. Alors, c'est peut-être un mec, justement, du PC qui va nous venir avec une gimmick de MMA. Ils seront peut-être plusieurs. C'est peut-être les restes de Raw Underground.
Moi, je pensais que c'était ça. Moi, je pensais que c'était Raw Underground qui revenait. Alors, on parle d'un clan, c'est peut-être, comment il s'appelle, là, le bon, Roderick Strong, qui est parti pour aller nulle part. Vu qu'il a un style un peu comme ça... ce serait peut-être lui, peut-être. Je sais pas du tout.
Il y a beaucoup de pistes. Ah, parce qu'ils avaient quand même quelques catcheurs façon MMA qui traînaient dans le Raw Underground, mais qui étaient du Performance Center justement.
Alors il y a des théories sur l'arrivée de Tessa Blanchard en fait dans ce groupe. Alors qu'effectivement, ce serait un groupe plus ou moins. Ça a l'air d'être lancé pour être.
Faudrait qu'elle signe déjà Tessa Blanchard.
Au
Mexique.
Ça fantasme sur Tessa Blanchard apparemment.
Vu les casseroles qu'elle a, à mon avis, elle sera plus jamais signée à la WWE.
Ah, tu crois carrément?
Ouais, elle a raconté de la merde. Elle est mal vue dans les vestiaires. Elle se fâche avec tout le monde, elle a fait des vidéos où elle mangeait son caca, des trucs comme ça. C'est bon. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Tully Blanchard, donc. Voilà, non, mais c'est. Ouais, non, je crois pas trop. Non, j'ai rien entendu de comme quoi elle avait signé ou quoi que ce soit.
Mais ça sera un clan, donc.
Un clan, je suis même pas sûr que ce soit un clan, mais bon, on verra bien. On verra bien. Et puis j'ai pas vu ça dans l'émission. Vous l'avez vu dans l'émission, vous?
Ah oui, moi je l'ai vu dans l'émission.
Ouais. Ouais, moi aussi, ouais, bah oui, oui.
Ok, d'accord. Bon, moi je devais avoir la tête ailleurs. Du coup, main event. Le main event. Alors, c'est les Legado del Fantasma, accompagnés de personnes, puisqu'ils sont trois, qui affrontent MSK et Kushida, donc les champions tag team et le champion cruiserweight. On se rappelle que Kushida a pris la ceinture justement au leader de Legado del Fantasma, Santos Escobar, qu'on connaissait sous le nom de El Hijo del Fantasma quand il était au Mexique. Et donc, c'est parti pour un gros spot fest hein, des familles. Ça va dans tous les sens au début, jusqu'à ce qu'on isole c'est Carter, je crois, de MSK.
Ouais.
Pendant un bon moment.
Nash Carter et Wesley.
Voilà, Nash Carter. Il prend la hit jusqu'au hot tag avec Kushida. Et après, c'est reparti. Alors, c'est gros hot tag de Kushida. C'est reparti pour le spot fest. Kushida expose tout le monde dans tous les sens. Il fait des dropkicks, des souplesses, en veux-tu, en voilà. Jusqu'à ce que Escobar expose Kushida à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs avec une grosse powerbomb. Il est séché Kushida, il y a même les infirmiers qui débarquent. Ensuite, on envoie Carter dans l'escalier de fer. Il est hors jeu aussi pendant un bon moment. Et du coup, on se retrouve avec Wesley seul contre les trois. Donc, il se défend comme il peut. Mais il se fait quand même bien taper la gueule. Jusqu'à ce qu'il réussisse à faire le hot tag avec Carter. Mais le hot tag est stoppé net. Il se prend un gros coup de latte dans la gueule. il tombe à terre. Il y a Kushida qui va tenter un retour aussi, mais il est stoppé net assez rapidement par Santos Escobar qui fait son finisher, là, son espèce de powerbomb modifié. Et ben pour rien, il n'y aura pas de miracle. Hein. C'est la victoire de Legado del Fantasma. Après qu'il s'est fait leur finisher, Joaquin Phoenix et Raul Mendoza. Sur, je crois, Wesley ou Carter, un des deux. Mais en tout cas, c'est la victoire. Ouais, c'est la victoire des méchants qui se pavanent avec les ceintures. Kushida est limite blessé. Gros match qui m'a rappelé la X-Division de la TNA.
C'est,
moi,
Kushida, hein, c'est Kushida qui prend le tombé. Hein.
C'est Kushida qui prend le tombé. Ouais. Non, Kushida, il est séché par...
Bien, hein.
Il est séché par machin.
Non, il me semble que c'est les deux qui... Mais...
Moi, dans mon souvenir, c'est Escobar qui prend Kushida et après les deux font un tour.
Les MSK sont à l'extérieur du ring, en fait, sont en train de se faire tabasser par le Legado del Fantasma et que c'est Escobar qui me fait le pin sur le Cruiserweight Champion, puisque après, derrière, il brandit la ceinture de Cruiserweight et les deux autres le rejoignent avec les ceintures tag team et il reste au milieu du ring à fanfaronner sur le cadavre.
Non, c'est Mendoza qui fait le tomber.
Ah ouais,
sur Carter.
Ah ouais.
Kushida tente le retour. Kushida tente le retour. Il se fait arrêter par Escobar. Escobar le place dans son finisher.
Ah, peut-être.
Et alors, après, les deux autres, les deux Mexicains, ils font le finish sur Carter. Leur finish à eux.
D'accord.
Là.
Alors, Escobar fait pas son finisher, mais fait pas le tomber. Quoi.
Ouais, parce que mais en fait, ça se termine. Il y a quand même Escobar qui tient... un peu Kushida, un peu on dirait en position de tomber, mais c'est juste qu'il s'est pas relevé de la...
My bad, mais je me fais tellement harceler par John Cena sur Twitter, il m'envoie des nudes de Nikki Bella, et du coup ça me perturbe sur quand je suis en train de regarder NXT en même temps.
Bah c'est ça. Il est relou, hein, John Cena, moi je l'ai déjà vu aussi.
Ah ouais, ouais.
Il t'envoie des SMS, que j'ai mangé à midi, bon, rien à foutre.
Ouais. Dès que tu l'as en follow back, c'est un enfer.
Oh là là. Voilà, gros main event. Bah, tonton, hein, dis-nous un peu ce que tu as pensé de ce match. Je pense que tu as bien aimé. Il n'y avait pas de mal de
du bien
dans le ring.
Ah, ouais, oui, non, du bien. Oh, moi, j'ai pensé du bien. Un match quasi 14 minutes, quoi. 13 minutes 40 exactement. Et j'ai pensé que du bien de ce match, en fait. J'ai trouvé que c'était un chouette main event. C'était cool. C'était bien. Je trouve que c'est bien que le clan des Mexicains reste fort et que Santos Escobar reste dans la course de Cruiserweight. Alors, la semaine dernière, avec Papy, on envisageait quand même d'autres challengers. Mais il est legit, donc qu'il soit parmi les challengers susceptibles de vouloir prendre la ceinture à Kushida, bien. Ensuite, j'ai fait un truc quand même fondamental dans tout ce qu'on est en train de dire.
C'est oui, j'ai oublié de le mentionner, mais vas-y.
Kushida écoute catch-up. Kushida est branché sur notre antenne toutes les semaines. Et après les affaires de jeans, après les affaires de chaussures, eh bien, qu'a fait Kushida, ça y est, il a remis des pompes.
C'était un scandale la semaine dernière.
Moi je suis d'accord là, franchement là, d'ailleurs je crois que j'ai retiré déjà 0,25 juste à cause de ça déjà.
Ouais. Et, je vais arrêter l'émission.
Si c'était pas 0,5, ouais, limite la grève de la review quoi. Et donc direct le mec, il a rectifié le tir, il est revenu. Alors là pour le coup dans un cosplay que j'aime beaucoup et une vraie tenue et voilà, et il a fait un super combat. Ils ont fait un super combat les 6. J'ai trouvé que vraiment ça s'envoyait. Là évidemment la voltige parce qu'on a que des petits gabarits quoi. Là on a 6 petits gabarits, alors toujours cette frustration hein, mon papy hein, du manque de barbac à NXT hein. mais le match en lui-même était vraiment bon, c'était un chouette main event et ça s'absorbait tranquille.
Papy,
ouais bah j'étais sur le coup, moi j'étais à poil déçu de voir ce match être en main event. Parce que, comme le disait Tonton, c'est vrai que c'est avoir tout le temps des crevettes en main event, c'est toujours un poil dérangeant. Mais au final, ils ont réussi à m'embarquer quand même, parce que d'une part, je trouve que le fait d'avoir des champions face aux challengers, c'est toujours une dynamique qui est sympa, en fait, à voir. Et donc, en plus, c'était un vrai match où les 6 sont tous envoyés dans la gueule. Les miskins, là, j'arrive pas encore à les distinguer, mais ça viendra avec le temps. Il faut qu'ils installent leur personnage, qu'ils installent un peu des rivalités. Et du coup, d'avoir en face d'eux les gâteaux del Fantasma qui sont vraiment des heels bien dégueulasses comme il faut, là, ça va leur faire une première rivalité sympa. Et donc, du coup, plutôt sympa. Kushida, comme je le disais, moi, je trouve qu'il s'épanouit un peu depuis qu'il est champion. Jusque-là, moi, je trouvais que c'était un mec qui servait pas à grand-chose. En fait, il faisait juste des matchs. Là, maintenant, il a positionné en face dans une ceinture et puis c'est en plus le tenant du titre. Donc, je trouve plutôt bien. J'ai bons espoirs pour lui maintenant, alors que jusqu'à présent, il faisait vraiment aucun sentiment pour moi. Et donc, voilà, c'est au final, voilà, un main event que j'attendais pas, puis qui finalement m'aura marqué, puis qui m'aura fait une belle fin de show.
Ouais, Kushida, c'est un champion. Hein. Faut lui donner la ceinture. C'est un babyface, quoi. Il faut lui donner des victoires. Il faut qu'il déroule son catch. Et là, on comprend pourquoi il a eu la carrière qu'il a eue au Japon et pourquoi on l'attendait de pied ferme à NXT. Après, ils sont tous bons là-dedans. Hein. MSK, effectivement, c'est des petits prodiges quand même. Même s'il y a encore un petit boulot au niveau du physique de Carter. L'autre, ça va, il est quand même bien affûté. Mais c'est des mecs qui ont déjà un bon niveau et puis qui ont tendance à progresser. Donc, je suis plutôt... Je suis plutôt content de leur arrivée, même si effectivement ils ont gréé la priorité à tout le monde. Et Joaquin Phoenix, Raúl Mendoza, c'est aussi de très très bons.
Joaquin Phoenix.
C'est pas Joaquin Phoenix quand même, il s'appelle comment?
Joaquin Wilde.
Joaquin Wilde, putain. Lui il a aussi déjà une carrière assez longue à la TNA, etc. Il a toujours fait plutôt de bons matchs. Bah, ça ressemblait beaucoup à un match de la X Division. De la belle époque.
Un peu, ouais, pas faux. Ouais, belle comparaison. Effectivement, ça ressemblait un petit peu à ce que proposait la TNA il y a pas mal d'années de ça maintenant.
Ouais, on sent peut-être une volonté aussi de concurrencer la All Elite Wrestling un peu sur ce genre de match un peu spotfest. Mais bon, là, on a quand même des cadors quoi, dans le ring, donc du coup, c'était vraiment bon. Raúl Mendoza, pareil, il a fait que du bon boulot, lui, à chaque fois qu'on l'a vu. Hein, ça fait un moment que c'est un laborieux un petit peu de NXT, oui. mais c'est un clan qui fonctionne bien, je trouve, les Gado del Fantasma. L'autre, il tient bien son poste. Je trouve qu'il a un peu un acting proche de Triple H Escobar, en version mini, comme ça. Mais...
Ah oui, là, la comparaison, là, carrément, le bagou, ouais. Carrément dans une grosse comparaison, là.
Non, mais je trouve qu'il a tendance à bouger dans le ring un peu pareil. Il s'est mis les mêmes types de bandages aux mains. Il a les cheveux longs avec la barbe.
Ouais, effectivement, en tant que chef de clan, un peu meneur, vraiment meneur à la dure, effectivement, ça peut ressembler à Triple H chef de clan. Ouais.
Ouais, je pense qu'il doit tenir ses petites astuces directement de Triple H. Voilà, bah en tout cas, un très bon main event pour ce weekly. La semaine prochaine, on aura Shotzi et Ember contre Indy Hartwell et Candice LeRae dans un Street Fight. Et aussi un False Count Anywhere entre Isaiah Swerve-Scott et Léon Roof.
Où on va zapper.
On va zapper. Et le retour de Finn Bálor est annoncé aussi. Voilà ce qu'il faut attendre de la semaine prochaine. Et pour l'instant, c'est l'heure du mot de la fin. Mon bon papy, un top, un flop, une note.
Oui, bah on va essayer de te trouver ça. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Bon, le top, je le donne au main event, comme ça je me fais pas chier. Main event de qualité, du catch, 6 gars qui s'envoient bien dans la gueule, qui ont en plus réussi à me convaincre, alors que moi j'étais pas partant au départ, donc c'est toujours un bon point dans ces cas-là. Et puis en plus, qui permet de finir bien le show, donc ça coche un peu toutes les cases, cette affaire. Mon flop, que je vais donner comme flop. Je vais le donner à Adam Cole, qui m'a saoulé, en fait. Je n'avais pas envie de le revoir, et puis bah, ce qu'il a fait, ça ne m'a pas intéressé, donc voilà, flop dans ta gueule, ça t'apprendra à revenir. Ce serait bien reçu comme ça. Et ma note, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est un show. Au final, le catch était plutôt bien, en fait. Quand je revois un peu tous les matchs qui ont eu lieu, c'était plutôt intéressant. Tout ce qui s'est passé dans les cordes, c'était bien. Par contre, tout ce qui est censé nous vendre les prochaines semaines, c'est pas trop intéressant. Là, tu viens de donner le programme de la semaine prochaine. Bon, le tag team féminin, ça va. Mais alors, par contre, Swerve Scott et l'autre con, ça m'intéresse pas. Retour de Bálor, je suis pas forcément chaud. On n'a pas vu non plus Karrion Kross. J'ai pas souvenir là. Donc voilà, c'est un show qui m'hype pas vraiment pour la suite, mais qui par contre me fait passer un bon moment. Donc je suis un peu tendu sur choisir la note. Mais allez, on va être nouvelle saison de catch qui démarre là, on va être positif. Je vais leur donner quand même un bon 3 pour ce match, ce show.
Allez, un bon 3, c'est bien payé. Tonton, dis-nous tout.
Mon main event, mon top, ça va être dans ce NXT. Je vais suivre Papy parce qu'au final, je trouve que le show s'est terminé d'une belle manière avec un beau main event, de la compétition pour le titre Cruiserweight, des mecs que j'aime bien dans le ring. Voilà, les jeunes, moi je les aime bien, hein, les MSK, là, les Wesley et Nash Carter.
C'est difficile de ne pas être impressionné par leur catch. Hein.
Pour être nos fils, Papy.
Voir petit-fils.
Et ces gamins, ils me font plaisir, franchement. Il manque certainement encore pour l'instant de promos. Ils sont encore un peu green. Pas tant que ça in-ring. Moi, je trouve que les tag teams, je les juge beaucoup sur la capacité à faire des double teams et faire des hot tags bien sentis. Et je trouve que c'est leur cas. Et donc, je les trouve, pour l'instant, ils me surprennent agréablement, ces deux jeunes-là. Ils me font penser à leur. Un peu à une équipe qui est à l'AEW qui s'appelle les Top Flight, qui sont deux frangins. Et c'est vraiment exactement les mêmes gabarits, le même style de catch. Ils sont spectaculaires, pas super au micro certainement. Mais en tout cas, il y a de l'avenir. Voilà, c'est exactement en fait ce que je veux voir à NXT finalement. Les Legado del Fantasma, c'est pareil. Même si Raul Mendoza, comme tu l'as bien dit, Ringside, c'est un mec qui commence à être un peu un vieux de la vieille aussi. Mais il a toujours été cantonné à un rôle de jobber de luxe. Et puis, il y a eu l'arrivée de Legado del Fantasma qui a pu le remettre au premier plan. Et il s'en sort super bien parce qu'il est loin d'être un manche dans le ring.
Ils sont très bons, les trois Mexicains. Là.
Ouais, en plus, notre ami Mendoza, il est safe, ce qui pour un Mexicain n'est pas toujours évident. Parce que d'ailleurs Santos Escobar il peut être assez stiff et notre ami Wide de son côté lui il a botch un petit peu de temps en temps et finalement le safe du trio c'est vraiment notre ami Mendoza quoi et du coup donc vraiment enthousiaste véritablement enthousiaste sur ce main event. Mon flop ça va être un espèce de flop un peu général sur l'ambiance un peu trop raw à mon goût. Un peu beaucoup trop de coulisses, un peu beaucoup trop de promos, un peu beaucoup trop de backstage, un peu beaucoup trop de on nous remontre, puisque c'est la phrase à la mode en ce moment. J'ai du mal. J'hésitais à le donner à Adam Cole, Kyle O'Reilly, mais je vais le laisser. Mais je vais le donner pour l'espèce d'enrobage de ce NXT qui me plaît de moins en moins. Tous les timings de match, j'ai regardé par rapport aux deux dernières semaines, tous les timings de match sont en baisse. Il n'y a que le main event qui aura eu l'honneur d'un match de presque 14 minutes. Attention, j'aimerais pas que ça glisse trop vers ce que propose le vaisseau amiral. Quoi. Et ma note, je vais rester positif quand même, parce que même si les matchs ont été trop courts à mon goût, il y en a eu quelques-uns de qualité pour le coup. J'ai beaucoup aimé le match avec Imperium, j'ai beaucoup aimé le match avec Mercedes. Je suis fan de Mercedes, vous le savez, hein. J'aime beaucoup Mercedes Martinez. Alors là, le kiff avec Raquel Gonzalez, moi je kiffe, je kiffe chez les filles à NXT. Là. C'est que du bonheur. Là, comment ça se tabassait, comment ça s'insultait en espagnol, là, ringside, là. Bing, bang, bing. Oh là là, moi j'ai aimé ça. Et donc, je vais lui donner un petit peu moins que Papy. Je vais donner un 2,75, moi.
Right. T'avais quelque chose à ajouter, Papy ?
Non, juste sur Joaquin Wild, qui me semble qu'il y a déjà à son palmarès une grosse blessure. C'est pas lui qui avait flingué le gars à la TNA, là, où je confonds ?
Oui, il y avait eu ce drame. C'est Jesse Sorensen, je crois,
qui s'appelait. C'est ça, Jesse Sorensen qui est revenu dans le catch, finalement. Donc, ça n'est pas sorti, parce que je crois qu'il est à l'AEW maintenant. Mais qui l'avait mis sur la touche pendant très très longtemps en lui poutant le cou, un botch. Et d'ailleurs, je crois qu'c'était juste pour rebondir sur le fait les trois Mexicains. Je suis pas sûr que tu es Mexicain, d'accord, Joaquin Wild, j'ai un doute.
Ouais, il doit être un petit peu.
C'est peut-être un Américain, Mexicain, Mexicano-Américain, je sais pas, on vérifiera.
Il n'est pas philippin ou en tout cas,
peut-être.
Non, c'est TJ Perkins qui est philippin.
Je confonds alors peut-être.
TJ Perkins, c'est philippin, mais non, je pense pas, Joaquin. Enfin, fact-checking, peuple de catch-up. Hein. Quand on sait pas, on demande au peuple de catch-up.
Voilà, mettez dans les commentaires si vous connaissez la vraie nationalité de Joaquin Wild, donc pas Phoenix, hein, comme je l'ai dit depuis le début de l'émission. Joaquin Phoenix, c'est un acteur qui est mort, non, je crois.
Non,
il est vivant.
Non, cet homme est vivant.
C'est sûr, ça. Ah oui, je confonds.
Non,
je
c'est
confonds
ton, tout c'est aujourd'hui.
Tu confonds avec Ryder Phoenix.
Et avec Ryder Phoenix.
C'est Ryder Phoenix qui est décédé, effectivement, mais il y a déjà un paquet d'années, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Bah,
c'est
il
vrai.
Est très jeune, le pauvre. Et je dis, et au fait, tant qu'on y est dans les conneries, Zima Ayon, là, Michael Paris, Joaquin Wild, il est donc né à Los Angeles, Californie.
D'accord.
Ouais. C'est une grosse merde. On oublie, hein.
Ok, voilà. D'accord. Ouais. Donc, c'est un Yankee total, quoi. D'accord. Bon.
Ok. Comme quoi, un bon bronzage, hein, et puis voilà, te voilà mexicain.
Des UV efficaces, et puis bam.
C'est ça. Non, bah, on l'aime bien. Voilà, grosse carrière déjà derrière lui, quand même, ce petit gars, et beaucoup de blessures. Mais heureusement, du côté de ses adversaires, qui fait qu'il est encore en grande forme. Alors, moi, je vais donner mon flop au Young Grizzlies vétéran face à Ciampa et Timothy Thatcher, là, tout le segment avec enlever ses chaussures et tout ça. Voilà, comme on l'a expliqué, ça sert à rien d'essayer d'imposer des trucs qui ont marché ailleurs. Si vous voulez les imposer, il faut les construire, hein, tout simplement. Et puis, bon, les Young vétérans, ils ont qu'à aller faire les vétérans à NXT UK. Ils sont très bien là-bas. Et le top, je vais le donner au main event. Hein, je vais vous suivre. C'était un très très bon match. J'étais très content de voir tout ça. Je vais donner 2,75. Je ne suis pas encore convaincu parce que, un peu comme Papy, je ne suis pas trop hypé pour la suite. Au final, j'ai quand même passé un bon moment dans le show. Comme tu l'as noté, Tonton, on en avait parlé un peu plus tôt juste avant que tu arrives. Il y a une espèce de nouvelle formule là, qui est en train de se mettre en place. Mmh. Du moins qui a été testé cette semaine avec des segments qui s'enchaînent très vite. Donc un peu moins de catch, un peu plus de segments variés, c'est un peu plus bordel. Tout va très vite. Et comme on disait, bah, on va voir si ils vont retenter ça la semaine prochaine, si on va rester et puis qu'ils vont réussir à trouver une formule qui fonctionne ou pas. Moi, je suis plutôt assez quand même content qu'ils essayent de tester des trucs parce que pour moi, la formule NXT, depuis que c'est à la télé, ça ne fonctionne pas. Donc il faut tester des trucs. Après, effectivement, il y a des choses qui ressemblent peut-être un peu trop à Raw, qu'il va falloir trouver la formule adéquate, hein, si on veut garder un petit peu la spécificité d'NXT et quand même le fun, parce que depuis que c'est la télé, quand même, c'est pas très folichon. Hein.
Non, mais comme tu disais, s'ils font une formule à la TNA Impact de début 2010, là, avec l'Exhibition, tous ces trucs-là, et moi, franchement, pour le coup, là, ça me botterait, parce que c'était. Je me souviens que je. C'était un truc ouais. Que j'appréciais particulièrement cette époque-là. Hein.
Ouais, ouais, bah, la X-Division, tout ça. Ils avaient aussi une grosse division féminine à TNA. Mmh. Et effectivement,
des segments, enfin, il y avait tout qui était plutôt équilibré à cette époque-là. Hein.
Ouais. Et je pense qu'ils ont pas mal en backstage de producteurs ou de gens comme ça qui venaient de la TNA. Donc, ils doivent quand même avoir le savoir-faire un minimum. Je pense qu'ils pourraient essayer de reproduire cette formule gagnante, vu qu'ils ont les talents pour. Hein. Évidemment. Plutôt que d'essayer de faire un truc façon Raw qui va finir par ressembler à ce qu'était la ICW façon WWE, là, qui n'a quand même pas donné grand-chose au final.
Bah, c'est marrant ce que je parle beaucoup, hein, mais là j'ai le même sentiment que toi. J'ai l'impression qu'ils reprennent le concept d'NXT et qu'ils font un mini show Raw façon ICW qui était ICW WWE qui finalement qui est crevé complètement sans intérêt. Quoi. Donc,
ça m'inquiète.
C'est pas ces trucs-là qu'ils prennent. Hein.
Ça m'inquiète beaucoup, clairement, sur les prochaines semaines, je vais scruter ça parce que je suis vraiment, vraiment pas dans l'esprit de me retrouver avec un espèce de show bis d'euro. Si au moins c'était sur le niveau, le level de SmackDown, pourquoi pas, mais si c'est calqué sur ce qui se passe à Raw, oulala, 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 j'ai un peu peur là. Et je suis un peu étonné quand même dans ce que vous êtes en train de dire là. C'est que finalement, quand même, ce show, il appartient plus ou moins à Triple H. Et je suis assez étonné que Triple H lâche du lest là-dessus. Alors, évidemment, contrat télé, évidemment, business is business. Mais quand même, ça me laisse un peu perplexe, ça. Est-ce que Vince McMahon ou les décisionnaires administratifs de la WWE disent à Triple H, « Ouais, non, mais attends, on a besoin de faire des thunes. On a besoin d'avoir des passages de pub pendant les shows. » il faut raccourcir les matchs, tu vois, il faut faire moins de produits.
Non, mais
un paquet de produits, on est aux États-Unis, hein, donc.
Moi, je sens pas la patte Vince McMahon sur ce, par exemple, sur ce show-là. Je vois plus non. La patte des
effectivement des producteurs télé de la WWE qui sont sur Raw et SmackDown, et peut-être qu'ils réussissent à avoir un peu plus l'oreille de Triple H à l'heure actuelle, parce que le show fonctionne pas des masses, donc je suppose.
Ah, je pense pas à la patte de Vince McMahon dans le sens booking et organisation du show en propre. C'est vraiment, si tu veux, par rapport à l'aspect financier de la chose. Et est-ce que voilà, ils veulent faire peut-être de NXT aussi un produit rentable, et que pour eux, ce que nous on aimait auparavant, c'est-à-dire tout ce côté ligue de développement, gros temps donné entre les cordes. Sur des promos in-ring avec des rivalités construites sur la durée et vraiment efficaces, quoi. Est-ce que ça va pas être sacrifié
est-ce que
les commercials
est-ce que cette formule-là, on l'a vraiment eu à la télé? Pour moi, NXT, depuis que c'est passé à la télé, la formule, elle fonctionne plus. Ils pouvaient se permettre, quand ils étaient sur Network, de faire un show sans star power, vraiment axé catch, avec des rookies, etc., parce que c'était le Network. Depuis qu'ils sont sur la télé, avec des temps plus longs, des impératifs, la pub, etc., la formule, elle n'a jamais fonctionné. Donc là, ils essayent de tenter un autre truc. Effectivement, ouais. Comme ça, ça a l'air de se rapprocher un peu plus d'euros. Moi, comme je dis, je ne vois pas non plus du tout la patte de Vince McMahon là-dedans, parce qu'il y a des erreurs qui sont faites que lui ne ferait pas dans ses shows habituellement. Je vois plus la patte des petites mains de la WWE qui pour moi est plutôt le mauvais côté des weekly d'Euro. Maintenant, je vois aussi effectivement ce qui se faisait à la TNA avec un show un peu plus bordélique, un peu plus rapide, un peu plus speed. Est-ce qu'en gérant bien les manettes, est-ce qu'ils peuvent arriver à faire un produit plus digeste que ce qu'on a depuis que c'est à la télé? C'est l'espoir que j'ai. Après, effectivement, je pense qu'on récupérera jamais le produit NXT qu'on avait sur le network.
Moi, je suis plus nuancé que toi sur NXT d'avant le fait du passage à la télé, parce que moi, j'ai pas trouvé que c'était aussi mauvais que ça sur le sortir de la télé. Jusqu'à il y a encore quelques mois, je considérais que NXT quand même restait vraiment un show de super qualité. Je ne sais pas si c'était le fait de la baston du mercredi, de la bagarre, mais je pense que pendant la période des mercredis, ils présentaient quand même des matchs beaucoup plus longs à ce moment-là, et il y avait plus d'émulation peut-être. Et là, je trouve vraiment... Alors là, maintenant, en plus, les mercredis, c'est fini, on est passé au mardi. Ils ont du coup un peu une augmentation dans les ratings, ça va quand même beaucoup mieux que ce que c'était auparavant. Ouais, ça fait quand même plusieurs émissions là. On en est à la troisième review là depuis qu'on a repris NXT. Déjà les trois émissions ont peut-être pas été à la hauteur de mes attentes.
Ouais, et puis moi en fait, ce qui me perturbe, ce que je me demande, ce qui gêne pas, c'est tout ce qu'on a déjà dit, c'est le fait que des mecs qui soient arrivés à un niveau plafond là, et puis qui plafonnent
depuis
des mois. Et avant, tu sais, quand tu avais des mecs qui arrivaient, je suis pas sûr qu'il y ait plus de star power que ça avant, parce que tu avais quand même des Nakamura, des Bobby Roode, des Owens, des Zayn. Bah, tu avais quand même des super mecs, mais tu savais qu'ils étaient là pour un ou deux ans, casser des gueules, puis hop.
Ouais.
Puis là, tu as des mecs qui ont été mis en avant, puis hop, ils sont repartis en arrière. Et puis tu te dis, s'ils sont là, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le niveau. Puis bah, du coup, est-ce que tu as encore envie de les voir? C'est pas sûr, quoi. Donc,
je suis d'accord avec ça.
Il y a des gueules que tu n'as plus envie de voir.
Mais ouais,
tu peux pas t'investir dans des mecs qui font du surplace.
Voilà. Ah, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis parce que je pense aussi que c'est ancré en nous le fait de ce passage dans le main roster, quoi, du moment où il faut aller dans la big league, là, mec, là. Faut aller te frotter au costaud et aller voir un peu ce que tu vaux véritablement, ce que t'as dans les tripes, quoi. Ciampa, par exemple, c'est pour moi, c'est parce qu'avec un Gargano, un Adam Cole, physiquement pour moi, c'est le plus impressionnant. Et Ciampa, quelque part, je me dis, ouais, c'est décevant de l'avoir jamais eu dans la Big League. J'aurais été curieux de voir ce qu'il était capable de faire. Fort comme il est au micro, malgré son de gabarit par rapport à toutes les grandes barbaques de la Big League, bah, je pense qu'il aurait eu sa place dans cette histoire.
Ouais. On va rester sur notre fin, je pense. J'espère qu'il y aura quand même un jour une montée pour ces gars-là, voir ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai que maintenant, là, depuis quelques mois... C'est de nouveau les gros gabarits qui sont au sommet de l'affiche, hein, la WWE, dans le main roster, qui mangent un peu le temps d'antenne. Hein.
Ah bah c'est clair, quand tu vois.
On est revenu au gros gabarit. Hein.
Main event de Backlash, McIntyre, Strowman, Lashley, je veux dire, là, c'est difficile de faire plus de balèze.
Il y a une petite place pour Daniel Bryan.
Oui, mais Ciampa, ce que je veux dire par là, c'est que Ciampa,
c'est un physique.
C'est un gars qui a un physique, c'est un gars qui a du micro, et c'est un gars qui a suffisamment de background pour venir faire des rivalités de qualité dans les titres intermédiaires, pour le titre US, intercontinental, voire former une tag team avec je ne sais qui. Dites-nous dans les commentaires, qui c'est que vous metteriez en tag team avec Tommaso Ciampa. Alors là, il est avec Thatcher à l'heure actuelle, make Thatcher great again. Mais c'est pas ça qui va changer grand chose. Voilà, il est là, et je pense que tous les trois, on est tous dans le même. On en a marre, quoi.
On en a marre.
Je change ma note, je mets un 1 maintenant. Voilà.
Zéro, c'était nul. Voilà, on a fait le tour de
un gros
ce
tour.
NXT. Ouais, on a fait le gros tour. On a été à fond. Dans les détails, on n'a pas effleuré le sujet, comme on dit. On a mis les mains dans le cambouis. Allons-y au fait. Alors, on vous l'a dit en fin d'émission, on vous le répète. Vos questions pour
la
fin
d'émission.
En début d'émission.
Ah, ça va, c'est bien, c'est bon ça.
Mais je m'en fous, je ferai un point de montage. Alors, on vous l'a dit en début d'émission, on vous le redit en fin d'émission, c'est bientôt l'anniversaire de Catch Up, les 5 ans. Donc, pour notre émission qui sera une belle foire aux questions en live, posez vos questions sur les réseaux sociaux, @catchupcdc, et sur les commentaires YouTube.
Et sur
vous pouvez aussi aller sur Discord aussi, si vous êtes chaud patate. L'invitation est dans la description. Un Discord, c'est un réseau social où vous pouvez venir discuter avec nous directement. Hein. Attention. vous nous retrouvez du coup sur YouTube, hein, vous aurez compris, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez le petit pouce vers le haut, on vous sera gré. Donc les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est aussi sur Instagram et évidemment donc sur Twitter, @catchupcdc encore une fois. Retweetez quand on tweet, ça nous fera plaisir. Et puis vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast du monde entier. Mon bon tonton, merci beaucoup d'être venu.
Eh ben écoute, merci à toi Ringside d'avoir accepté mon retard et avoir pu m'installer auprès de cette belle tag team d'enfoirés que vous êtes.
C'est ça quand on oublie de bloquer la porte. mes plaisirs partagés. Mon bon papy, merci également.
Bah merci Ringside pour cette émission d'analyse et de débat. C'était quelque chose qui était passionnant.
Il faudrait qu'on en refasse une. Hein. Si vous êtes libre pour SmackDown, je vous invite. Voilà les amis, je vous invite également aussi à nous retrouver toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. Catch Up, c'est ça désormais. On est omnipotent et omniprésent. J'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao, bye bye les amis.
Salut à tous.
Salut les gaziers, salut peuple de catcheurs! # Catch-up anniversary.
Voilà.
La propagande.
Viens nous voir, viens nous écouter, viens déposer tes questions.